France Maghreb 2.
Au sommaire de ce grand forum et pour ce lundi 28 octobre à la une, le rassemblement contre l'islamophobie a-t-il selon vous été un succès hier un petit peu partout en France, hein, puisqu'il n'y avait pas qu'à Paris. On en reparle dans un instant avec Rudy Kazi, Gaba Labina et Mehdi Chebaïki et vous chers amis auditeurs, peut-être vous qui avez participé à l'un d'entre eux au 01 40 33 9000. Invité dans ce LGF, Adama Traoré de La Révolution est en marche. Adama Traoré qui s'était fait remarquer par l'organisation d'une manifestation au lendemain de l'attentat de la préfecture qui a visiblement été mal interprété. Il viendra s'expliquer tout à l'heure. Le zapping et le quiz en fin d'émission au menu au programme de cette émission du Grand Forum jusque 18h sur France Maghreb.
Le Grand Forum, Christophe Roux, 16h-18h sur France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ce fut chaotique mais on est là. Ravi de vous retrouver. C'est lundi aujourd'hui. Nous sommes le 28, on est de combien aujourd'hui? 28. C'est bien, 28 octobre. Tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2. Évidemment, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui Gamal Amina. Comment ça va, mon Gamal?
Ça va très bien, et toi?
Toujours fondateur des droits civiques.
MDC, ouais,
MDC,
toujours.
Bien ouais. Entendu.
Co-fondateur.
Co-fondateur des droits civiques, exactement, monsieur Gamal Amina. Monsieur Rudy Kazi, comment ça va, Rudy?
Ça va très très bien, Christophe.
Et toi, tu es président.
Toujours vice-président.
Vice-président,
ouais.
Je vais me perdre dans vos titres, moi.
Vice-président. C'est pas
grave. Vice-président des.
Les forces républicaines.
Les forces républicaines, exactement. Mehdi Chebaïki, c'est pas compliqué, il est à SNCF, c'est un cheminot, lui. Salut, mon Mehdi.
Un vrai, un pur, un dur. Salut à tous.
Salut mon Mehdi. On recevra d'ici une petite demi-heure Adama Traoré. Vous connaissez Adama Traoré?
Bien sûr.
De La Révolution est en marche. Mmh. Il viendra s'expliquer parce que c'est Adama Traoré qui avait fait l'actualité quelques jours après donc l'attentat de la préfecture de police de Paris. Celui-là même qui avait appelé à une mobilisation du côté de Gare, je crois, pour dénoncer le caractère terroriste de cette attaque de la préfecture. Il avait d'ailleurs effectué une petite garde à vue, hein, de 24 heures. Il viendra s'exprimer tout à l'heure, voilà, en toute liberté, dans cette émission sur France Maghreb 2. Pour l'heure, on va revenir, messieurs, sur ce qui s'est passé hier, alors à Paris, mais pas seulement à Paris, parce que c'était aussi dans les grandes villes, Lyon, Toulouse, Marseille. C'est cette mobilisation autour de la dénonciation de l'islamophobie grimpante, rampante, évidemment. La question que l'on vous posait, bien sûr, c'était, est-ce que, pour vous, ça a été une réussite? C'est la question que l'on vous pose. Gamal Abina, tu y étais,
oui,
tu
es
même intervenu hier. Est-ce que ce fut une réussite, cette manifestation, son rassemblement plutôt?
Alors oui, indiscutablement une vraie réussite, non seulement parce que bon, je suis intervenu, mais j'ai aussi participé à l'organisation de l'événement avec tout un groupe d'associations, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc une réussite dans la mesure où les conditions étaient extrêmes et défavorables, dimanche, ok, en pleine vacances, sous la pluie,
il
faisait froid, c'était une horreur, c'était très très difficile à mettre en place. Et au départ, c'était un peu un échec, faut tout dire, parce qu'au début, il y a pas trop de monde vers 13h. Puis après, au fur et à mesure, il y a eu un grossissement des troupes et on arrivait à un peu plus de 2500 personnes à minima qui sont venues et c'était une vraie réussite sur le plan de l'organisation et puis sur l'autre plan en termes d'image, c'était fort. Et surtout, les copains d'RT étaient là, Al Jazeera, pas mal de médias ont répercuté l'information, elle a été repris partout sur toutes les chaînes de fil d'actualité, chaînes d'infos et journaux d'information. Donc vraiment, c'est une réussite dans la mesure où, effectivement, le groupe qui a organisé ça, c'est plusieurs associations qui n'ont pas donné un nom précis.
Apolitique, hein?
Oui, apolitique au départ. C'est pas seulement une réaction, c'est aussi une action.
Ouais. Alors effectivement, ce fut un succès. Il y a eu grosso modo, on va dire, entre 2000 et 2500 personnes à Paris. Ça a bien marché également du côté de Toulouse. On a eu Céline Bourri qui était là-bas, Marseille, Lyon. Je sais pas d'ailleurs si Mehdi, il y a eu quelque chose du côté de Lyon?
Non, je revenais de vacances, donc j'ai pas assisté. Mais il y avait quelque chose, c'était samedi par contre à Lyon.
Ah oui, ah d'accord, okay. C'était samedi. Tu revenais de vacances, mon Mehdi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais pas au courant.
Tout à fait. Ah ben j'étais dans l'un des plus beaux endroits de France, un des endroits où justement on sort des polémiques, la Réunion.
Ah,
la Réunion, c'est un mot fort en plus.
Alors, il faut que tu nous racontes, mon Mehdi, comment c'était?
Ben c'était magnifique, c'était magique et c'est en fait ce que devrait être la France. Il y a vraiment un modèle là-bas pour le coup. On parle d'islamophobie, on parle de racisme, on parle de vivre ensemble. Et pour le coup, j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur cette île s'ils en ont les moyens et le temps pour se rendre compte de ce que c'est que vraiment le vrai vivre ensemble, de ce que c'est que de sortir de toutes ces considérations stériles qu'on nous impose par le biais des médias et d'aller voir sur place ce que ça peut être que de vivre avec des couleurs différentes, des religions différentes et de former quand même une communauté de Réunionnais qui est heureuse et qui est fière d'elle.
Bon bah très bien, donc t'as, ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu devais partir, c'était, je savais pas que c'était en ce moment. Bah écoute, ça a dû te faire drôle en rentrant la météo là.
Ah ben la météo, et puis plus que le climat des nuages, le climat politique.
Effectivement. Alors bon Rudy, t'es parti toi hier ou pas?
Non.
Non?
Non, non, moi je pouvais pas, j'avais trop de, mes responsabilités familiales ont pesé sur, sur la chose.
Islamophobe.
Alors, dites-nous 01 40 33 9000, vous qui avez peut-être participé à quelques-uns de ces rassemblements hier à Paris ou à Toulouse ou à Marseille, pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment vous l'avez ressenti. Est-ce que c'est pour vous une réussite? C'est la question que l'on vous pose. 65% disent oui hein, sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Sur Twitter également, le grand forum FM2 pour voter, n'hésitez pas. Bien sûr, alors... Au-delà de cette, de ce rassemblement, est-ce que cela suffit, Gamal? Comment maintenant il faut axer les choses? Est-ce qu'il faut se contenter de rassemblements, de marches, de manifestations, ou il faut peut-être diriger la chose de la, de, d'une manière différente?
Il y a deux choses. La première, j'ai pris la parole hier en préambule, donc j'ai commencé à ouvrir le festival des preneurs de parole, j'allais dire, de ceux qui intervenaient, les speakers donc, et j'ai expliqué.
T'as vu hein, sur RT France notamment. Hein.
Oui.
Ouais, ça c'est à côté, ça. Mais dans le discours que j'ai développé sur scène,
c'est chez lui RT France.
Oui. Non, non, mais là par contre, je vois très clair. Hein. La journaliste qui est venue me voir ne me connaissait pas. Elle a voulu me prendre à la suite de mon discours. Parce que j'ai fait un rappel historique pour commencer par rapport aux années 30, évidemment, hein, c'est un grand classique. Et surtout, j'ai dit que ça doit être un premier pas vers autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est une mobilisation nationale. Qu'on va appeler bientôt, donc on est en train de préparer ça. Une mobilisation nationale dans laquelle on fera converger, je l'espère, tous les citoyens qui se sentent exclus du système français, quel que soit le type d'exclusion, pour venir sur Paris. On espère une date qu'on va annoncer bientôt. Et l'objectif, c'est de faire une démonstration de force. Pourquoi? Pour démontrer que le citoyen n'est pas quelqu'un qu'on doit déconsidérer. Et à côté de cela, effectivement, il faut aussi produire une alternative politique, c'est pousser les gens à voter, à s'inscrire sur les listes électorales, s'ils sont inscrits à ce moment-là, à accepter de donner leur pouvoir à un membre de la famille pour aller voter s'ils n'y vont pas, mais conscientiser les gens qu'ils ont un pouvoir politique dans une démocratie très important. Et c'est là-dessus que nous orientons, à savoir faire des mobilisations, pousser les gens à s'inscrire dans le débat politique et surtout, et c'est avant toute chose plus important, produire nos propres acteurs. Pourquoi? Parce que je vous dis très court, hier, à la suite de cette mobilisation qui a été une réussite, Monsieur Macron a appelé qui? Le CFCM. Il a appelé des gens qui ne nous représentent en aucun cas, qui ne sont pas élus. Voilà le problème.
Oui, c'est vrai qu'il y avait le président de la République recevait le CFCM ce matin. Alors, sur la suite à donner de ce rassemblement, qui est une première, on va dire, en réaction avec toute cette campagne un peu beaucoup même islamophobe, raciste envers et se focaliser finalement du côté des musulmans. Qu'en dit Rudy sur la suite à donner de cette mobilisation?
Pour moi en fait, dès lors que cette mobilisation demeure dans les rues, pour moi en fait elle est limitée dans le temps en réalité. Par exemple, faire un rassemblement contre l'islamophobie qui ne réunirait pas de façon large et transversale toutes les couches de la population, finalement ce serait démontrer qu'on n'est pas encore que l'objectif poursuivi n'est pas encore atteint, à savoir sensibiliser le maximum et surtout trouver des adeptes. Je vous prends un exemple sans vouloir faire de parallèle direct, et ça c'est pour ceux qui voudraient m'accuser de faire des raccourcis, mais si vous prenez par exemple la marche de l'égalité
83,
absolument,
voilà, mais même au-delà de ça, la marche pour les droits sociaux aux États-Unis, les droits civiques,
absolument.
Ou en ponctuation duquel effectivement Martin Luther King a eu son grand discours I had a dream. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans cette marche, c'est vrai qu'il y avait des noirs parce qu'ils étaient concernés par la situation, mais il y avait largement des blancs. Il y avait très largement des blancs dans cette et sur la tribune autour de laquelle effectivement on pouvait s'exprimer différents acteurs, il y avait aussi des blancs.
Ouais.
Donc la réalité, c'est que la lutte contre l'islamophobie, elle gagnera si largement la société y souscrit et que on voit
c'est
en fait
ce qui manquait hier quoi, ça manquait. Voilà. De couleurs.
Voilà des quantités non négligeables, comme on dit, qui dresseraient en fait un réel arc-en-ciel. Voilà, passez-moi l'expression.
Pour les couleurs, faut être très clair. Hein. L'organisation de cet événement s'est faite en moins d'une semaine, la communication 3 jours. Les moyens techniques à mettre en œuvre sont faits parce qu'on a eu la chance de connaître des gens de qualité qui se sont mis à disposition. La levée de fonds s'est faite difficilement et l'essentiel a été financé par une personnalité. charité qui s'appelle Mohamed Koh-Lanta, il faut lui rendre hommage. Et ce qui est formidable, c'est là où vraiment j'ai dit, j'attire l'attention. D'abord, il y a eu Raphaël Guillaume, mais pas seulement. Il y a des intervenants qui n'étaient pas nécessairement arabes ou musulmans. Ça, c'est la première des choses.
Ouais, ça, c'est bien.
Et il faut rassembler. Moi, je pense qu'effectivement, je souscris à ce que dit Rudy. Il faut rassembler au-delà de nos questions, à savoir la question de l'exclusion, parce qu'elle ne concerne pas seulement les musulmans en France. On l'a vu avec les gilets jaunes. On le voit avec les handicapés. On le voit avec beaucoup de personnes qui sont mises de côté dans un système extrêmement violent d'ultralibéralisme qui ne s'intéresse pas à ça.
Moi, c'est ce que je souhaite et ce que j'espère. Mmh. Mais la réalité, c'est que quand je vois le comportement, en fait, le comportement, tu sais, les silences. Tu vois, le silence en dit long. Et je trouve qu'il y a, par rapport donc à ce que subit en fait la communauté entre guillemets musulmane en France, je trouve qu'il y a une forme de silence. Ceux qui vont avoir tendance à se manifester, ça va être les politiques qui sont type France Insoumise, etc. Ouais, voilà, parce que historiquement, ils se sentent proches. Pour des raisons sur lesquelles on va pas revenir, puisque je vais pas non plus louer en fait cette proximité qui en réalité des fois a eu tendance à préserver, on va dire, une certaines fractures sociales plutôt qu'elle n'a permis en fait à ces populations d'en sortir. Je trouve qu'il y a un silence autour de ça. Alors d'où vient ce silence? Parce que faut s'intéresser, je pense, aux causes, faut se questionner là-dessus. Moi, je pense en fait que d'une certaine manière, la communauté nationale ne fait pas bloc entre guillemets derrière la communauté musulmane, qui est une communauté religieuse à laquelle effectivement souscrivent pas que des maghrébins mais aussi des africains et même des blancs convertis. Je trouve que il y a une distance qui est prise parce que il y a ce contexte déjà médiatique sur lequel travaillent aussi les politiques. Voilà, si on reprend les propos de Castaner sur les critères de radicalisation, la gêne d'Emmanuel Macron à parler du voile par exemple en disant c'est pas mon affaire. Donc en fait, et en même temps, il y a une autre population française qui se tient loin de ces réalités, alors qu'effectivement on pourrait trouver des points de convergence, que ce soit les discriminations, discrimination territoriale avec les gilets jaunes, et dont on a aussi pensé que pendant les gilets jaunes, les jeunes de quartier pouvaient aussi souscrire aux revendications des gilets jaunes parce qu'ils étaient concernés par les mêmes choses, tu vois. Il y a encore en fait des positions où les gens se tiennent éloignés les uns des autres, et je pense que le problème est là. Il faut travailler à ça en fait.
Pour Macron, c'est pas qu'il est gêné sur la question de, quand il a dit c'est pas mon affaire, il est pas gêné, il est très clair. Il dit ça n'est pas l'affaire, lui Macron, donc l'institution d'État, des femmes dans la rue voilée ou dans n'importe quel établissement qui ne soit pas un établissement public.
Ouais, mais c'est une pirouette.
Non, mais il est pas bête, Macron, c'est un mec très intelligent. Le propos est clair. C'est pas mon affaire, c'est pas moi qui dois m'en occuper. C'est pas moi l'État. C'est pas Macron. C'est vraiment en termes d'État qu'il parle. Il le dit de façon très, très cavalière.
Le président de la République, c'est l'État, tu vois.
Oui, c'est pour ça qu'il dit c'est pas mon affaire, moi l'État et Macron. C'est pas à titre personnel qu'il dit ça.
Mais justement, lui, quand on l'attend et qu'on veut qu'il se prononce là-dessus, c'est pas en tant qu'Emmanuel Macron, c'est en tant que président de la République.
C'est ce que je dis justement. C'est ce qu'il fait. Macron dit bien, c'est pas mon affaire, président de la République, c'est pas mon affaire en tant que Macron.
Voilà, mais normalement, en tant que président de la République, ça devrait être son affaire parce que il est garant, effectivement, de l'unité nationale.
Oui, mais dans le discours, c'est pour ça que je dis dans le discours, faut bien écouter le discours.
Alors, messieurs, il dit, vous êtes pas que nous, il y a Mehdi aussi, hein, qui est là de l'autre côté.
Il est en vacances. Mais,
non, Mehdi. Il est pas en vacances, il est à Lyon.
C'est les vacances aussi.
Bon, cheminot, mon cheminot, mon Mehdi.
Oui.
Sur la suite à donner concernant ce rassemblement qui avait lieu hier, est-ce qu'il faut, de quelle manière il faut axer maintenant?
Je pense que pour être plus efficace, il faudrait aller prêcher la bonne parole dans les chichas, parce que c'est là que se trouve le monde.
Pas mal.
C'est méchant.
C'est méchant. Mehdi.
Voilà, ça y est. Il balance une vanne, il n'y a plus personne.
Voilà, c'est bien. Merci les gars, hein. Vous l'avez censuré. Ça,
pourtant, c'est une bonne vanne. C'était une bonne vanne. Je suis déçu.
Bah oui, non, mais
j'attendais la suite.
Franchement, Mehdi Chebaïki, t'es là ou pas? Bon, on va essayer de te rappeler. Je sais pas ce qui se passe avec ton Mehdi du côté de Lyon. Apparemment, ça a du mal à passer. Donc, oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, c'est de voir un petit peu comment on va axer les choses, comment on va essayer. Ah, Mehdi, tu es là. C'est bon, on l'a retrouvé. Bon, Mehdi, alors, excuse-moi, il y a eu une petite coupure là momentanée. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur la suite à donner, tu nous parlais des chichas, donc.
Oui, voilà, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder pour être un peu plus efficace. En fait, lorsque tout à l'heure vous avez parlé de succès, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle un succès. Est-ce qu'on parle de succès organisationnel ou est-ce qu'on parle de succès populaire? Parce que c'est deux choses vraiment différentes.
Alors, on peut parler de succès niveau d'organisation.
Largement.
Pour ce qui est de la popularisme, pour ce qui est du popularisme, on attendra un peu quand même.
Oui, bien sûr.
Eh bien, c'est justement là que le bât blesse, et qu'il blesse depuis des années, même des décennies maintenant. C'est comment arriver à faire bouger une masse qui visiblement n'a pas envie de bouger, comment arriver à repolitiser des gens qui visiblement n'ont pas envie de l'être. Ce qui se passe maintenant depuis 20 ans, et puis on peut accélérer les choses sur les 3 dernières années, où c'est vraiment un combat dur qui est mené contre une partie de la population française, aurait dû réveiller beaucoup de gens. Aurait dû permettre à des associations de faire le plein, aurait dû permettre à des partis politiques de se voir renouvelés par des adhérents qui en auraient eu assez d'entendre ce discours habituel et violent qui nous est mené, qui nous est fait. Et là, ce n'est pas le cas. On est vraiment face à une situation d'endormissement général. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à faire bouger les gens? Et là, permettez-moi d'être un peu pessimiste, mais hélas, je ne vois pas à l'instant T la solution.
Moi, j'ai envie d'être un peu positif, malgré tout. D'abord parce que en termes de succès au niveau de l'organisation, c'est indiscutable. On a été très bons et là-dessus, franchement, je rends hommage. Pourtant, c'était fait dans des conditions très très courtes, hein, une semaine. Donc là-dessus, chapeau. Ensuite, en termes de succès au niveau du retentissement médiatique, on a été tellement bons que Macron fait appel au CFM le lendemain, ce qui est pas anodin. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, notre faiblesse
alors
a été
que
de quoi ?
La veille, il se prononçait pas.
Absolument. Et la faiblesse qu'on a eue, c'est que, alors, c'est un choix malheureusement de l'équipe qui va devoir évoluer. Je dis, faut organiser un groupe, une fédération. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon discours, qui doit être identifiable et qui ne doit pas être le CFCM. Il faut arrêter de prendre des institutions fabriquées par Sarkozy puis dire c'est eux qui nous représentent. Donc pour y parvenir et pour mobiliser au-delà des chichas, hein, mon ami, au-delà de ça, pour mobiliser, il faut rappeler quand même, et là je fais un rappel historique des années 30, quand les Allemands se faisaient éclater la tronche dans les années 30, Hitler arrive au pouvoir en 33. Pendant 6 ans en Allemagne, il ne se passe rien. Il a fallu attendre la lutte cristal pour que les Allemands commencent à paniquer. Je parle des Juifs allemands, qui étaient 600 000, donc un dixième de notre communauté. Il a fallu attendre 6 ans pour qu'ils commencent à comprendre le danger réel qui leur tombait dessus. Et c'est en cela que je dis, le passé prouve qu'ils n'étaient pas organisés, ils ont eu un massacre qui les a conduits à s'organiser, et nous vont faire de même, mais en attendant pas le massacre, évidemment.
Alors, oui, mais le problème, c'est que tu es très rationnel dans ce que tu dis, et moi je ne peux qu'accepter ce que tu dis, Gamal, parce que c'est historiquement prouvé et c'est logique. Le problème, c'est que il faut bien reconnaître que la communauté française de confession musulmane est une communauté qui ne vit que dans la réaction. Nous sommes une. Alors, je ne sais pas si c'est sociologique, si c'est culturel. Je m'interroge vraiment, hein, de plus en plus.
Moi, je pense.
Qu'est-ce
que
qui fait que ça ne bouge pas plus?
Moi, alors, on va accueillir Raouf. Hein, c'est un auditeur.
Ah, okay.
01 40 33 9000. Bonjour Raouf.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que moi, j'étais hier à Nation, et par rapport aux manifs de l'Algérie, je pense que c'est pas une réussite.
C'est pas une réussite. Pourquoi c'est pas une réussite?
Alors, on n'était que 2000, 3000, pas plus.
C'est une réussite.
Pourquoi ?
Pas parce qu'on a fait une communication en moins de 5 jours, c'est énorme. Ensuite, c'est une réussite parce que je suis désolé, moi je fais les manifestations pour l'Algérie. En termes d'organisation, j'ai pas vu d'écran géant, j'ai pas vu de sono, j'ai vu des trucs en dispersés. Ils sont nombreux, certes, mais en termes d'image, zéro. Nous, par contre, les moyens. Nous, on a fait dans les conditions les plus atroces. Je veux dire, il pleuvait, il faisait froid. Personne n'y croyait. Il y a eu des dissensions dans le groupe parce que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord sur un minimum commun, ce qui a été fait finalement in fine. Mais il faut voir un peu la qualité de l'organisation. On avait, pour donner une idée, on avait 100 personnes pour le personnel de sécurité qui étaient étiquetées avec des gilets visibles. On a eu un écran géant, on a eu aucun débordement. Les policiers ont été en vacances avec nous. Ça, c'est une réussite extraordinaire.
Voilà, bah, Raouf, pour la réponse en tout cas.
Ok, merci.
Merci Raouf. 01 40 33 9000, messieurs. Donc on va voir un petit peu comment ça va s'organiser. Est-ce qu'il faut, et c'est là ma question très importante, est-ce qu'il faut que les politiques s'en mêlent? Est-ce qu'il faut faire appel, je sais pas, à inviter les partis politiques à se mêler de cette question, Gamal?
Oui, c'est pas qu'il faut inviter les partis politiques, parce que il y en a qui doivent être convoqués s'ils nous sont favorables. Mais ce qu'il faut, c'est imposer nos interlocuteurs au gouvernement pour dire nous représentons la population qui est stigmatisée en l'occurrence. Alors moi, j'aime pas le terme stigmatisé, je l'ai dit hier à RT, c'est un terme qui a une origine chrétienne, les stigmates du Christ, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, on est plutôt dans le harcèlement. Tout à l'heure, Christophe, tu disais par exemple qu'il y a une islamophobie rampante. Moi, je suis plus à la rampante, on est en galopante aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont plus dans ils rentrent plus maintenant, ils vont direct. Et si on n'est pas capable d'intervenir, parce que c'est un détournement d'attention, on va finir par le payer très cher.
Mehdi, est-ce qu'il faut inviter les politiques à venir rejoindre le mouvement?
Qu'est-ce que tu entends par inviter les politiques à rejoindre les mouvements? C'est-à-dire venir prendre la parole?
Venir prendre la parole ou venir participer à des signatures éventuelles?
Non, honnêtement, moi, peu m'importe qu'ils viennent sur place. Ce que je demande, ce qu'il faut, c'est contraindre non pas inviter, mais contraindre par la pression, qu'elle soit électorale, associative ou humaine, sans violence bien entendu, hein, on parle de pression politique, contraindre les politiques à ne plus nous taper dessus et à nous sortir du débat, à nous sortir de ce faux débat. C'est surtout ça qui est, à mon sens, la priorité. Parce que les faire venir, ils vont venir quoi ? Ils vont venir se faire mousser, ils vont venir prendre le micro, dire combien ils sont gentils, combien ils aiment les musulmans, mais à l'Assemblée, ils voteront ce qu'ils voteront. Dans les municipalités, ils signeront les arrêtés qu'ils auront envie de signer. Il faut vraiment une pression tout terrain. Mais pour ça, je le répète, il faut vraiment un gros mouvement populaire. Et un mouvement populaire, ça passe, à mon sens, par une organisation et une hiérarchie. Et aujourd'hui, étant donné que ça part dans tous les sens, il n'y a pas de visibilité au sein de la communauté. Et tout à l'heure, Gamal disait que oui, il ne trouvait pas normal que Macron fasse appel au CFCM. Moi non plus, je trouve pas ça normal, parce que le CFCM a été mis en place par les institutions de la République. Mais à défaut, il va appeler qui, Macron, aujourd'hui ? Qui est-ce qui, aujourd'hui, fait vraiment, non pas l'unanimité, mais fait consensus au sein de la communauté française de confession musulmane ?
Alors, Mehdi, pardon, te couper, parce que d'abord, on arrive au niveau de la pub. Et une information qui vient de tomber, on va confirmer l'information. Une mosquée aurait été attaquée à Bayonne.
Absolument.
Effectivement, ce qu'on vient d'apprendre, il y a des blessés, visiblement. Donc, on se met la pub, et dans un instant, on reçoit Adama Traoré, qui sera avec nous dans un instant, pour revenir sur cette polémique à suivre sur votre radio France Maghreb 2. Restez bien avec nous, Mehdi Chebaïki, Rudy Kazi et Gamal Abidine sont avec nous aujourd'hui. Le Grand Forum, merci d'être avec nous aujourd'hui. Rudy Kazi, Gamal Abidine et Mehdi Chebaïki sont avec nous et je vous confirme effectivement l'information qui vient de tomber. Une mosquée qui a été attaquée à l'arme à feu du côté de Bayonne. Il y aurait deux blessés, dont un grave. C'est un individu qui a été interpellé visiblement, Gamal.
Absolument.
Soixantaine d'années visiblement, donc il a tiré à deux reprises et aurait également prévu de jeter un engin incendiaire. Voilà pour les informations qu'on vous donne. Bayonne, c'est dans le sud.
C'est ça.
Ouais, c'est dans le sud, on est d'accord. Bayonne.
Il y a une soixantaine d'années, c'est inquiétant parce que c'est peut-être un ancien de la guerre d'Algérie, on ne sait pas.
Oui, enfin, on va peut-être pas non plus.
C'est peut-être. J'ai dit, voilà, alors, c'est mesuré. Voilà.
Les peut-être enfin, n'ont pas leur place ici, mon cher Gamal. Alors,
on peut spéculer, on peut spéculer.
Non, non. Voilà. Alors, Kamel est avec nous depuis Montreuil. Salut, Kamel. Kamel. Bon, il est parti, visiblement, mon cher Kamel. Mehdi, je crois t'avoir coupé avant la pause, et pardonne-moi, sur justement le fait que les politiques pourraient éventuellement rejoindre le mouvement de dénonciation de l'islamophobie, de lutter contre l'islamophobie au travers des rassemblements, au travers, par exemple, de documents qui pourraient être signés. Toi, tu disais que c'était pas une bonne idée, Mehdi. Mehdi ? Bon, décidément, c'est super. Mehdi, tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Voilà, je t'écoute alors, mon vieux, vas-y.
Non, ça avait coupé, donc c'est pour réagir par rapport à
oui,
ce qui vient de se passer à Bayonne.
Pour la suite à donner de ton intervention de tout à l'heure, quant à aux politiques, s'ils pouvaient forcément rejoindre un petit peu le mouvement, quant à dénoncer l'islamophobie. Toi, tu me disais que c'était une mauvaise idée.
Non, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. J'ai dit leur donner une scène gratuitement pour qu'ils viennent se faire mousser, ça, c'est une mauvaise idée. Les politiques ne fonctionnent. En fait, pourquoi est-ce qu'un politique viendrait et se déplacerait ? Pour son intérêt personnel, soyons clairs et nets, à part quelques-uns qui ont peut-être une haute idée de la politique, la plupart s'intéressent plus aux élections à venir. Donc, qu'ont-ils à gagner ? Et est-ce que nous avons quelque chose à leur offrir pour qu'ils y aient quelque chose à gagner ? C'est là que le bas blesse. Tant qu'on n'aura pas résolu cette équation, inviter au nom des politiques, ce sera simplement leur faire plaisir à eux.
Oui. D'accord, ok, on a bien compris. Donc, effectivement, c'est peut-être pas le bon moment, on va dire le bon timing.
Nous, quel est notre intérêt ? Encore une fois, quel est le leur et quel est le nôtre ? Le leur, je le vois très bien, de la même manière que lorsqu'ils viennent avant chaque élection dans les mosquées, voilà, qu'ils enlèvent très sympathiquement leurs chaussures et qu'après la mosquée, après le sermon du vendredi, ils nous font un joli sermon républicain avec voilà, demain on rasera gratis. Enfin, non, pas dans les mosquées, on rasera pas, mais vous m'avez compris.
Ouais,
mais voilà, si c'est pour avoir la même chose au niveau politique ou associatif, c'est pas la peine. Non, vraiment.
Bon.
Il faut les contraindre. Mais les contraindre avec le langage qu'ils connaissent. Mais nous ne sommes pas en mesure, pour le moment, de leur parler avec des mots qu'ils comprennent et qu'ils craignent, surtout.
Adil est avec nous. Bonjour, Adil.
Bonjour à vous.
Bonjour, vous nous appelez d'où, Adil ?
Bonjour. Voilà, je voulais tout d'abord prendre la parole pour remercier déjà tous ceux qui ont organisé le rassemblement qui s'est passé hier, partout en France.
Ouais.
Donc c'était vraiment... un bon rassemblement et ça fait vraiment plaisir pour par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité. Et aussi, en fait, j'aimerais aussi prendre la parole par rapport à ce qu'il avait dit un peu Mehdi et ce que vos intervenants ont dit sur le fait comment faire pour essayer de rassembler le maximum dans une cause, et notamment par rapport aux jeunes dans les quartiers qui se bougent pas par rapport à cette cause qui les concerne. Moi, je pense que c'est un travail. Il y a un travail à faire parce qu'il faut être optimiste. Moi, je pense que ce qu'on a vécu ces derniers temps, le rassemblement en lui-même, pour moi, c'est déjà très bien. Il y a eu un rassemblement, même si on était que 2000 ou 3000 personnes, c'est bien. Après, moi, je vois plutôt sur le long terme, et sur le long terme, ce qu'il y a à faire, moi, je pense, hein, c'est d'abord que les associations, c'est-à-dire toutes les associations qui sont déjà en place, petit à petit, demandent aux artistes, aux sportifs, aux acteurs, parce que moi, quand j'entends souvent tout le temps parler de l'islamophobie, j'ai l'impression que c'est comme les fachos qui parlent en commentaire sur Facebook, ils pensent que les musulmans, c'est que des gens des cités, des gens de quartier.
Alors, que pensez-vous, Gamal Abina, de cette proposition de notre auditeur, Adil?
De rassembler?
Ouais.
Oui,
artiste.
Oui, absolument. Je suis totalement d'accord. Je souscris. Les artistes sont des porte-voix parce qu'ils sont entendus. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui doivent parler à la place des politiques. Quand je dis les politiques, nos politiques à nous, ceux que nous allons produire comme éléments qui permettra d'avoir une discussion directe avec les hommes politiques élus. En l'occurrence, aujourd'hui, nous ne sommes représentés que par des clowns. Et les clowns n'ont pas à faire le travail des militants. Chacun son boulot. Les clowns sont là pour... Je dis clowns, c'est façon de parler. Hein, sont là pour faire rire, effectivement, et porter des voix. Les chanteurs d'eux-mêmes. Mais nous devons produire nos propres penseurs, interlocuteurs, militants qui sont en mesure de répercuter les vraies problématiques qui se posent dans les quartiers. Ouais.
Moi, je disais ça dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une visibilité. Et pour moi, les politiques, par exemple, on parlait des politiques là juste avant, pour moi, les politiques, ça sert à rien de les inviter, si on peut les inviter par politesse s'ils veulent venir, mais faut pas qu'on attende quoi que ce soit de leur part, tout simplement parce que comme il l'a dit le frère juste avant, ils ont rien à y gagner. Et on a beau dire ce qu'on veut, nous, on a cette chance-là, c'est qu'on est nombreux. Déjà, moi, j'avais dit en discutant avec 2-3 amis, le fait que, par exemple, comme hier, quand il y a eu le rassemblement à Paris, on aurait dû prendre une feuille, comme à l'ancienne, même s'il fallait faire comme à l'ancienne, une feuille, un stylo, voilà comment contribuer. C'est-à-dire que le truc, c'est que si on n'a pas une cagnotte, j'arrête pas de parler de cette cagnotte depuis longtemps, si on n'a pas cette cagnotte en commun, qui va faire qu'on utilisera ce budget pour les publicités, ce budget pour l'injustice, c'est-à-dire pour tout ce qui a rapport avec le pénal, ce budget-là qui sera aussi pour les écoles privées musulmanes, pour les projets qu'on essaie de mettre en place en France, on n'avancera pas. Et moi, je pense que s'il y a un truc crédible, comme le CCIF, il l'a fait, c'est-à-dire un truc crédible où on met une cagnotte, même si ce n'est qu'un euro par mois, par famille musulmane ou non musulmane qui sont pour cette cause-là, pour la justice, l'égalité pour tous, moi, je pense qu'on arriverait à avancer. Et on arrivera à créer des gros événements qui feront parler d'eux, parce que c'est l'argent. Encore une fois, même si on veut rassembler des gens autour de cette cause, il faut aussi rassembler de l'argent.
Parce que le problème des jeunes dans les quartiers,
parce que, juste pour finir, le problème des jeunes dans les quartiers, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, eux-mêmes, est-ce qu'on essaie de rassembler des jeunes de quartier parce que c'est des jeunes de cité, ou bien est-ce qu'on essaie de rassembler des jeunes de la communauté musulmane? Pour moi, c'est deux choses différentes.
Ouais.
Parce que déjà, eux-mêmes, ils ont un travail à faire au niveau de...
Adil, on a bien compris, parce qu'il faut qu'on avance quand même, Adil. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton intervention, on a bien compris. Mais Rudy, réaction peut-être?
Ouais, si... En fait, il y a un lien par rapport à ce qu'il disait, il y a quand même un lien entre jeunesse des quartiers et la jeunesse musulmane qui vit dans les quartiers.
Ouais.
La réalité, c'est que sociologiquement, et tout à l'heure, je crois que c'est Mehdi qui en parlait, sociologiquement, c'est déjà des populations qui se sentent pas trop concernées, en fait, par rapport à ce qui se passe en France, à cause de la fracture sociale, à cause de ce qui a été... voilà, possiblement, on peut remonter jusqu'à la colonisation. Avant ça, on peut remonter pour certains jusqu'à l'esclavage, etc. Il y a, en fait, une difficulté à se sentir, en fait, porté dans la continuité, en fait, de l'État français.
Ouais.
Donc maintenant, quand il faut se saisir des questions qui sont des questions d'ordre politique, même si ça concerne le religieux, ils vont avoir tendance à dire, ça me concerne pas. Moi, j'ai déjà fait, entre guillemets, sécession avec la France. Je me suis rattaché au pays d'origine de mes parents. Je me sens plus algérien, congolais, ivoirien que français. Donc à partir de ce moment-là, ils vont avoir du mal à s'inscrire dans un projet national. D'où l'idée effectivement d'avoir des personnes qui vont aller à leur contact, qui vont déjà leur faire prendre conscience de leur citoyenneté, que même si ils ont le droit de se réclamer de leur pays d'origine, mais qui prennent part aussi de leur francité, parce que c'est bien de critiquer le Front National quand ils mettent sur le banc de la société et marginalisent en fait des gens d'origine, mais faut pas aussi jouer leur jeu à refuser cette citoyenneté-là. Bon. C'est aussi un bon de sortie de la frustration et d'exclusion sociale. Donc il faut et je terminerai là-dessus, pardon, c'est vrai qu'on est un peu long, mais donc du coup il faut qu'il y ait des personnes qui viennent les aider à prendre conscience de leur francité, etc. Comme on peut le voir des fois à des élections locales, quand il y a des gens qui se présentent, qui sont de leur culture entre guillemets, ils disent moi je vais peut-être pas voter pour ton parti, mais je vais voter pour toi parce que tu me ressembles. Donc il faut des gens qui leur ressemblent, qui sont capables de les représenter à un certain niveau de la société, mais en même temps pas toujours sur les mêmes discours en fait victimaires, etc. Non, il faut en fait se réveiller et prendre à bras le corps cette francité et aller sur le terrain politique, idéologique, voilà.
Mehdi Chebaï qui est toujours avec nous, tout va bien?
Tout va bien. Non, je voulais merci à notre auditeur Adil pour son optimisme déjà, première chose. Deuxièmement, je voulais aussi alors, à mon sens, on parle beaucoup des jeunes de cité, des jeunes de banlieue, des jeunes de quartier. Mais moi, c'est pas tellement à eux que je ferais un reproche, parce que quand on a 18, 19, 20 ans, en effet, c'est naturel, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément la tête à construire un projet politique. En tout cas, dans aucun pays du monde, ce sont les jeunes qui font le renouveau politique. En tout cas, pas les jeunes de cet âge-là. Non, moi, ce qui me dérange le plus profondément, c'est que des pères et des mères de famille, des gens qui ont des enfants, des gens qui sont propriétaires, qui sont installés en France depuis 20, 30 ans, continuent d'agir comme des étrangers, quand bien même aurait-il la nationalité française. Des gens qui continuent à se laisser porter par le courant. Alors tout le monde n'a pas une capacité d'engagement comme celle de Gamal par exemple, ou comme celle de Yasser Loati, ou celle de Rudy, ou bien entendu. Mais ne serait-ce que faire un minimum, s'inscrire sur une liste, intégrer un parti, un syndicat, faire partie d'une association, donner une heure de son temps, même ne serait-ce qu'une heure par mois, voilà, à quelque chose de communautaire au sens positif, bien entendu, du terme. Moi, c'est ces gens-là, c'est la classe d'âge qu'il y a entre 25 et 60 ans qui me pose problème. C'est pas les jeunes. Les jeunes, ils sont jeunes. C'est à nous de faire le boulot forcément. Pour eux, hein. C'est pas le contraire.
Bon, alors, nous avons avec nous notre invité aujourd'hui, okay. Monsieur Adama Traoré, de La Révolution est en marche. Bonjour Adama.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien et toi?
Franchement, je suis content. Le débat, il est très élevé. Y a des discours que j'ai pu entendre. Ils m'ont redonné de l'espoir.
Ça bon, alors Adama, t'es là parce que tu t'es fait, j'ai envie de dire, remarquer, même si le mot n'est pas tout à fait exact, dans l'actualité. On était au lendemain de l'attentat de la préfecture de police. Et tu avais appelé à un rassemblement pour dénoncer le caractère terroriste de cet attentat. Jusque-là, j'ai bon.
Ouais.
Bon. Ensuite, effectivement, ça a créé... les médias se sont emballés, les politiques s'en sont mêlés. On t'a accusé de vouloir faire l'apologie du terrorisme.
J'ai même été arrêté par rapport à ça et mis en garde.
Alors, on a eu, nous, ici, l'occasion d'en parler avec des chroniqueurs du LGF. Chacun, comme ils le font d'ailleurs aujourd'hui, comme tu peux le voir, s'exprime en toute liberté. Beaucoup, ici, ont dit, Adama, que ce geste avait été, comment dirais-je, maladroit. Pourquoi d'abord? Alors pourquoi, Adama, as-tu cette volonté de dénoncer le caractère terroriste, sachant que tu ne fais pas partie, je me semble en tout cas, ni de la police, ni de l'enquête en cours. Pourquoi tout de suite avoir voulu mettre ça en avant?
Eh ben, déjà, je vais me présenter, car les discours que j'ai pu entendre au préalable me donnent une force incroyable aujourd'hui d'expliquer déjà qui je suis. Je m'appelle Adama Traoré, je suis originaire de la ville de Nice-sous-Bois dans 93. Il y a deux ans de ça exactement, en janvier 2017, suite à un discours de Éric Zemmour, lorsqu'il a dit que un musulman n'est pas compatible avec la République française. Moi, je suis de confession musulmane, je suis français avant toute chose. De là, on a réfléchi avec des amis à nous. On a créé un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche, un mouvement citoyen et politique, comme l'a pu expliquer au préalable, s'impliquer dans notre quartier, reprendre notre destin entre notre main, créer un mouvement citoyen et politique qui va vraiment élever le débat. De là, on a créé quatre entités populaires, associatives, politiques et géopolitiques. J'ai créé un parti politique, je suis le président du parti politique qui s'appelle Démocratie Représentative. J'ai été tête de liste pour les européennes de mai 2019. Depuis la création de la 5e République par le général Charles de Gaulle en 1958, il y a aucun gène de test anciennement délinquant qui s'est organisé avec toute la désinformation, toute la diabolisation qu'on a eue par les politiques et les médias de nous résoudre, comme il a dit, à une origine, à une confession, mais jamais à notre nationalité.
D'accord, mais Adama, voilà.
Non, mais je réponds pas à ta question. Pourquoi? Ouais. C'est-à-dire, lorsque moi je me suis prononcé par rapport à l'affaire de la préfecture de police de Paris, j'ai parlé en tant que révolutionnaire qui fait de la politique. Une personne qui avait les tenants et les aboutissants. Une personne qui travaille avec les sourds et malentendants depuis plus de 3 ans.
Ouais.
Non, mais c'est très important. C'est-à-dire, lorsque nous on s'est prononcé par rapport à une désinformation politique et médiatique qui jetait l'opprobre sur une partie de la communauté française. Les Français de confession musulmane. Mais attends,
c'est pas parce que tu vas parler vite et fort qu'on va te faire raison. Attends, juste on est là pour s'écouter, d'accord? Moi, je voudrais que tu répondes à cette question. Pourquoi, quels sont tes éléments qui permettent de dire aujourd'hui que cet attentat, parce que c'est un attentat, n'a pas un caractère terroriste? Pourquoi, en quoi, monsieur Michael Harpon n'était pas un terroriste pour toi?
Eh ben, je vais finir mes propos. Et par rapport à tout ça, vu qu'on a fait un gros travail de fin avec les sourds et malentendants depuis 3 ans, on a une page Facebook à cet effet. Ils nous ont contactés le vendredi, disant comme quoi Michael Harpon avait subi des brimades, avait subi des manques de respect par rapport à son travail qu'il mettait en place par rapport à sa situation de handicap. De là, on a reçu une policière à mon domicile le dimanche. Elle nous a expliqué que ça faisait plus de 10 ans de travailler avec Michael Harpon et à aucun moment Michael Harpon avait des signes de radicalisation.
Ouais.
Elle nous a expliqué des problèmes internes que là je vais pas m'étaler. Mmh. Et de là, nous, on a reçu sa sœur le lendemain. Mmh. Sa sœur nous a expliqué tout ce qu'ils disent de son frère à la télévision française. Elle ne reconnaît pas son frère. C'était une personne intègre, c'était une personne respectable, c'était une personne proche de ses enfants. Nous, on a fait un travail de fond sur son milieu professionnel, son milieu social et son milieu culturel et cultuel. On a parlé avec son prof de cours arabe. C'est-à-dire, on a fait un travail d'investigation de fond comme des journalistes auraient dû le faire.
D'accord.
Et de là, on s'est prononcé. Et de là, on s'est prononcé. Et ce qu'on a dit, nous. On a dit, on va faire une mobilisation, hommage aux policiers. Une grande pensée aux familles des policiers. Car aujourd'hui, c'est des informations politiques et médiatiques qui a fait croire qu'un jeune du 93 de confession musulmane a pu appeler à soutenir. J'ai honte. Quatre êtres humains qui ont été tués sauvagement. Oh.
Mais Adama...
Maintenant, de là, on a dit qu'on va faire une mobilisation pour pointer du doigt la désinformation politique et médiatique. Car le lendemain, ils se sont empressés de dire que c'était un islamiste, que c'était radicalisé, que c'était l'islam, que c'était ci. Alors qu'après le contraire, nous sommes français de confession musulmane. On a des droits, on a des devoirs.
Ouais.
On a le devoir de se prononcer lorsqu'il y a un sujet sociétal public. Mais... On a le droit, d'un moment donné, de remettre en question un discours de l'opinion publique qui est instrumentalisé par les politiques et par les médias.
Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière?
Est-ce que maintenant j'ai le droit en tant que Français? Je sais pas, je pose la question, hein, on est là. Là j'ai vu le débat, il est élevé aujourd'hui. Maintenant je parle à vous deux, monsieur. Est-ce que j'ai le droit de me prononcer?
Alors moi je vais déjà dire une chose, déjà ce qui m'intéresse, qui m'a interpellé pour le coup là, c'est l'explication de texte, c'est très intéressante, à savoir que vous avez eu l'occasion de rencontrer les proches de ces personnes. Il faut quand même rappeler au départ, faut pas oublier que même Castaner s'était trompé, ou pas trompé d'ailleurs, dès le départ ils ont dit que c'était une question, avant d'aller vite en besogne, ils ont bien dit que c'était une question de plafond de verre, qui sentait mal dans son travail, ça c'est ce qui avait été évoqué dès le départ, donc là-dessus on peut pas retirer à monsieur Traoré le fait qu'il ait entendu les personnes dire la même chose. La communication était peut-être maladroite, ça c'est un fait, par contre il y a une chose qui m'est toujours venue à l'esprit, je trouve très étonnant que même Daesh n'ait pas revendiqué, que Michael Harpon, qui a réagi violemment, n'a pas laissé de revendications quelconques. Il n'y a rien de tout ça. Donc ça, c'est les questions qui nous interrogent. Et surtout, à mon avis, c'est ce que je dis depuis le début, alors, je suis pas dans l'enquête, je ne connais pas les policiers, je ne connais pas la famille. Le sentiment que j'ai, c'est que le traumatisme de la police, parce que c'est un vrai traumatisme, de dire on a un élément à terre qui a tué des nôtres, doit être motivé par autre chose que peut-être un problème de mise à l'écart pour des raisons de handicap ou de raisons couleur. Donc peut-être que c'est ça. Maintenant, je ne le dis pas, je ne vais jamais me prononcer là-dessus, mais je découvre, et je suis très content de l'entendre, que vous avez discuté avec des gens de la famille. Donc ça, c'est intéressant.
Et voilà. Et de là, maintenant, pourquoi maintenant, bien sûr, sur la méthode de communication, par rapport à la méthode de communication parfois...
Elle était maladroite, Adama, non?
Oui, très maladroite.
Voilà.
Je le dis et je l'assume.
Bah, c'est d'accord. Non, mais c'est bien de le reconnaître.
Et pourquoi elle était maladroite?
Pourquoi?
Il ne faut pas oublier qu'elle a été instrumentalisée par l'extrême droite. Elle a été détournée par l'extrême droite.
Bien sûr, mais ça c'était prévisible, Adama. Maintenant tu commences à les connaître, mais tes adversaires.
Non, pour te prendre à
ton propre piège.
Voilà, mais que c'était prévisible, certes, mais que les politiques et les médias quand même qu'ils ont l'instruction, qu'ils ont le devoir d'avoir du recul. Car nous, les communs des mortels, lorsqu'il y a quatre personnes qui sont décédées, on est touché.
Bien évidemment.
On est dans l'émotion. Ça, c'est logique.
Non, parce qu'on a été jusqu'à dire que tu avais organisé une mobilisation pour soutenir le terroriste en question. D'accord.
Eh bien, pour être clair, là, aujourd'hui, sur France Maghreb 2, à aucun moment, dans la méthode de communication et dans les écrits, on a soutenu Michael Harpon sur les meurtres de la préfecture de police de Paris.
C'est quoi le texte exact qui a été dit?
Le texte exact, mettons, je vais revenir, et là, je vais vraiment élever le débat politique.
Okay.
Le vrai problème de cette histoire-là, quand ils ont fait du mal à ma famille, ils ont fait du mal à ma mère. Ma mère, elle a pleuré.
J'imagine.
Franchement, ils ont fait du dégât autour de nous. Je suis candidat pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. On avait trouvé une tête de liste intègre. Elle a eu peur. Elle s'est défaussée. Logique.
Ouais,
mais là, avec le recul, elle est revenue. Ça a fait vraiment de mal.
Alors, on rappelle que cette mobilisation, c'était le jeudi.
Voilà.
Et que le mercredi soir, on est venu te cueillir, quoi.
Maintenant, nous, ce qu'on disait clairement, c'est comment au jour d'aujourd'hui, monsieur Castaner, on a fait la demande de mobilisation le lundi, en bonne et due forme. On a expliqué les revendications.
Ça a été accepté?
Lundi, on envoie le mail à la préfecture du 95, au syndicat de police, à l'Agence Police Nationale et unité SGPFO pour pas faire d'amalgame. Car quand même, on avait quatre de leurs collègues qui ont été assassinés. Et de là, on a envoyé ça au bureau militaire du premier ministre, exactement, avec Julien Crochard. On a fait les choses dans les règles. Monsieur Castaner, il avait noir sur blanc notre demande de mobilisation.
Elle a été acceptée ou pas?
Mais là, je m'explique. Le mercredi, monsieur Castaner, non. Le mardi, à l'Assemblée nationale, lors de l'audition des députés, son bras droit s'exprime par rapport à la mobilisation. Alors qu'ils ont la demande depuis lundi. Depuis lundi, ils l'ont dans leur bureau. Le lendemain, M. Castaner, avec la pression politique et médiatique, avec une vidéo instrumentalisée par l'extrême droite, en sachant que le président de la République se dresse face à l'extrême droite à l'échelle européenne, s'est permis d'annuler la mobilisation. En France, nos aïeux, exactement en 1848, du 22 au 25 février 1848, se sont battus pour la liberté de manifester son opinion publique.
Mais donc en fait, tu penses quoi? Tu penses que
c'est incroyable.
Il y a eu une forme d'opportunisme politique à facilement en fait jeter l'opprobre sur l'organisation de ton mouvement, parce que ça pouvait servir à faire un petit peu cohésion nationale et en même temps continuer à faire un travail sur on va dire des jeunes qui peuvent être représentatifs de l'acceptation de pensée idéologie terroriste, etc., comme ce qu'on a supposé au sujet de Michael Harpon.
Ben là, je vais te dire, fais vous montrer les articles de presse, tous les gros titres par rapport à sémantique, comment ils me définissent.
Voilà. Prends un exemple.
C'est tout à l'heure tu expliquais par rapport au fait que on se définit jamais en tant que Français, mais toujours par rapport à nos origines, à notre confession. Car aujourd'hui, le gouvernement français, par sa sémantique, nous refait toujours à notre origine, à notre confession. Mais là, au jour d'aujourd'hui, l'opinion publique, à la base, c'est les médias. Et les médias, normalement, doivent remonter les revendications de la population et redescendre les dires des institutions. Aujourd'hui, exemple, lors de la période de Charles X, vous aimez un peu l'histoire, c'est exactement de 1824 à 1830, l'opinion publique était tellement puissante avec les médias, ils ont réussi à faire une révolution en 1830. Les 3 juillet, comme ils appellent ça, comme ça. Voilà.
Attends,
mais c'est important, mais à un moment donné, là, j'élève le débat, parce que j'ai vu le débat,
Attends, c'est moi qui élève le débat ici, Adama, c'est pas toi. Doucement, Adama, calme-toi.
Ils m'ont touché.
On est là pour s'écouter.
Le militant politique Adama Traoré prend fait en cause pour le terroriste Michael Harpon. Normal.
Oui, c'est ce qu'on a entendu, bien sûr, ça. On a vu tous les articles de presse. Voilà.
C'est les gros titres.
C'est quelle presse, ça?
Hein?
Quelle presse, c'est la source?
C'est
fou. Ah, j'ai pas mis.
C'est la presse, ouais, mais c'est ce qu'on a vu partout.
Un islamiste africain, dans le Aulnay-sous-Bois, appelle à une manifestation en mémoire du terrorisme Michael Harpon.
Ça, c'est plutôt l'extrême droite, ça.
Oh. On est en France.
Non, c'était partout, c'était pas l'extrême droite, c'était partout.
C'est pourquoi on vous fait toujours à mon
J'ai une question. En fait, là-dedans, de façon générale, très courtement, c'est que. Manifestement, dans ta communication, je pense que effectivement, je pense que tu t'es trompé, mais surtout, je pense que il y a eu peut-être chez toi une forme de naïveté en fait, dans le sens où en fait tu t'es laissé peut-être emporter en fait par ta verve militantiste, verve militantiste, sans faire attention à la manière dont effectivement les médias cinquième pouvoir, c'est comme ça qu'on l'appelle. Avait la capacité, au travers d'une machinerie qui est éprouvée depuis des années, capacité à emmener en fait les choses dans un angle d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que d'une certaine manière, je veux pas te culpabiliser sur sur ta communication. Mais vu l'expérience que t'as, il y a vraiment, tu vois, il faut vraiment être carré là-dessus pour pas être repris là-dessus. Mais ce qui est dommageable, c'est que l'État garant effectivement de l'unité nationale a peut-être saisi une opportunité, de jeter un peu l'opprobre, de faire un peu l'anathème. Autour en fait d'une jeunesse qui représentative, que tu représentes en tout cas d'une certaine manière, que tu représentes souvent une cible facile d'une médiatisation un peu alambiquée, etc. Ce qu'il faut opposer à ça, des fois, c'est une capacité à être son propre média. Mais si tu veux, je vais pas angéliser les choses, mais tu te confronteras toujours quand même, tu vois, à cette réalité que la médiatisation est souvent orientée d'une certaine manière. Donc, c'est dommageable. Maintenant, faut vraiment faire, en tout cas sur le terrain des idées, faut être le plus lisible possible, quoi. Alors, vraiment, c'est-à-dire qu'on puisse pas être
oublié. Alors, il faut juste qu'on apprenne quand même à parler un petit peu plus vite, parce que là, on part beaucoup de temps. Adama. Pour le coup, on va revenir dans un instant juste après la pub. Ce que je voudrais qu'on arrive à comprendre ensemble ici avec nos chroniqueurs et toi. Pourtant, t'es quand même quelqu'un d'averti, je veux dire, depuis des années, tu les connais, le politique médiatique.
Oui, effectivement.
Hein. Là, tu t'es pris à ton propre piège, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en organisant et en faisant appel à ce genre de truc, et c'est exactement ce qu'on a dit ici, quand on en a parlé, c'était évidemment perdu d'avance, Adama. Quand tu, 4 jours après, dans l'émotion nationale de ce qui s'est passé à la préfecture, tu appelles à un rassemblement, et tu dis bien, et j'ai insisté pour le dire et le rappeler, que c'était pour dénoncer le caractère terroriste. Ça apparaît déjà comme très particulier et très bizarre. Il y avait d'autres manières de dénoncer ces choses que tu nous rapportes et qui sont absolument incroyables. On est dans l'émotion, Adama. Et aujourd'hui, le cinquième pouvoir, qui sont les médias et qui t'ont fait dire des choses qui n'étaient pas ta pensée ni ce que tu voulais. Et vraiment, que d'appeler un rassemblement, ça pouvait évidemment que provoquer ce type de réaction. Quand on sait aujourd'hui le pouvoir de la fachosphère sur les réseaux sociaux, c'était perdu d'avance, Adama. C'est juste ça, nous, qu'on a ici relevé. On y revient dans un instant avec vos appels, si vous souhaitez, pour intervenir et poser vos questions, Adama. Mehdi Chebaïki aussi sera là, qui est avec nous toujours et encore. Juste après la pub, au 01 40 33 9000. Je rappelle cette information qui est tombée donc il y a quelques minutes, du côté de Bayonne, une mosquée attaquée. Deux blessés graves, c'était à alarme blanche. Donc on a tiré sur une mosquée du côté de Bayonne. À tout de suite.
France Maghreb 2.
Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Mehdi Chebaïki, Rudy Kazi qui sont avec nous, et notre invité Adama Traoré de La Révolution est en marche. Adama Traoré, que vous connaissez évidemment, l'habitant du côté de Aulnay-sous-Bois. Qui a fait beaucoup parler de lui, Adama. Juste, on va donner la parole à Mehdi Chebaïki qui écoute évidemment notre chroniqueur depuis Lyon. Bon Mehdi, quel est ton ressenti par rapport à tout cela?
Alors, on a beaucoup de coupures, mon cher Christophe. Peux-tu me rappeler la question?
Il n'y a pas de question en fait. C'est après avoir écouté Adama Traoré s'expliquer sur ce qui lui a été reproché, ce pourquoi d'ailleurs il a été en garde à vue, sur le fait d'appeler à une manifestation, à un rassemblement pour dénoncer le caractère terroriste qui a été fait sur Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police de Paris. On a juste dit qu'il y a eu un souci au niveau de la communication visiblement, et ce qui a permis à la fachosphère, aux médias aussi, de détourner finalement l'action proposée initialement. Bon, on a des coupures visiblement avec Mehdi Chebaïki, ça, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Lyon. Gamal, je sais que tu avais une question à poser.
Oui, deux choses. La première, c'est la plaisanterie que je vais placer par rapport à Zineb Razaoui, qui est pas très très finade, et qui a mélangé apparemment les Traoré. Elle a pas compris que c'était Dupont et Durand de la région, donc elle a mis à l'index la malheureuse Aïssa Traoré par rapport à cette affaire qui est aussi un drame. Et elle a mis tout ça dans le même sac, islamisme, machin, bref, c'était assez ridicule de sa part, enfin, c'est pas sa dernière. Maintenant, pour être très concret, alors, je vois le nom de votre organisation, ça s'appelle La Révolution est en marche. J'ai bien compris, quand t'es en marketing, en marche, La Révolution en marche, ça devait être opérant. Par contre, je pense qu'effectivement, l'erreur de communication, ça a été, et je pense, je donne pas de leçon, il aurait fallu un recul nécessaire pour pouvoir formuler et bien formuler la question que vous aviez abordée, à savoir, les médias, parce que c'est la question des médias, c'est eux qui ont répercuté ça, ont désigné un homme comme étant islamiste alors que pour l'instant l'enquête est en marche. Il aurait fallu le dire, à mon sens, pour dire que c'est la critique du média qui était mise en place et pas la défense de la personne qui était tuée, qui a, je rappelle quand même, tué 4 personnes. Donc ça, je pense que c'est une petite erreur. La vraie question que je vais vous poser, en termes juridiques, cette fois-ci, vous avez été donc incarcéré, vous avez été donc mise en garde à vue durant peut-être 24 ou 48 heures, sur demande du parquet, j'imagine. Est-ce qu'il y a des poursuites qui ont été intentées contre vous? Est-ce qu'il y a, s'il y a des poursuites, est-ce que vous avez une avocate? Est-ce que vous savez ce que la ligne de défense? Toutes ces choses-là, ça m'intéresse parce que ça aura des conséquences lourdes par rapport à votre mouvement.
Ben déjà, par rapport à la première question, c'est que, comme j'ai pu expliquer au préalable, c'est que nous, on s'est prononcé en tant que révolutionnaires qui faisons de la politique. C'est-à-dire, on avait les tenants et les aboutissants. Nous, on a été clair. C'est que c'était une personne qui était juste brimée dans son travail. En aucun cas, c'était un extrémiste religieux animé de revendications religieuses. Point barre.
On a aucun, oui, voilà. Selon votre enquête.
Voilà, selon notre enquête. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, elle nous donne raison. Point barre. Ça s'arrête là. Ensuite, par rapport à notre mouvement, bien sûr qu'on a fait un gros travail de fond avec l'avocate. Il y a deux plaintes qui vont être émises, une contre Jordan Bardella, un député européen du Rassemblement National, envers aussi la sénatrice députée LR du 95, car c'est elle qui a mis de l'huile sur le feu. Et il y aura d'autres plaintes qui vont être émises, car il y a quand même plus de 50 personnes politiques et médiatiques qui se sont tout simplement lâchées. Et aujourd'hui, on est dans un pays de droit. Et on a déjà gagné 6 jugements, dont un exactement en février 2019 face au ministre de l'Intérieur. Donc on maîtrise cet appareil juridique. On a la chance d'être un pays juste magnifique. Lorsque on fait valoir ses droits, on va pas lâcher.
Mais la question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous êtes poursuivi?
Ouais, bien sûr, je suis poursuivi pour apologie du terrorisme. Mmh. C'est juste incroyable, mais vrai. Et l'enquête est en cours. On attend.
Garde à vue, hein, on rappelle la veille du rassemblement que tu avais prévu le fameux jeudi. Hein.
Et voilà, par rapport à répondre à ce que tu as dit avant de couper l'antenne, c'est que à aucun moment, nous, au jour d'aujourd'hui, on a fait une erreur de communication, car on a un recul nécessaire. Ça fait 3 ans qu'on œuvre.
Tu peux pas dire ça, Adama. Mais, je suis désolé.
Mais au moins, je viens m'expliquer.
Tu t'expliques. Tout à l'heure, tu nous dis oui, j'ai fait une erreur. Là, tu nous dis j'ai pas fait d'erreur.
Attention, parce que nous, on a été clair. Michel Harpon. N'était pas un terroriste animé.
D'accord, mais après,
de revendications religieuses.
La communication.
Oh, attends, pourquoi? Non, mais demandez, c'est clair. Pourquoi? C'est qu'à preuve du contraste qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque il a commis ces drames atroces, à aucun moment il a fait une revendication politique. Un acte terroriste a une définition. C'est ce qu'on a dit clair et net et précis avec des textes de loi. On n'a pas une mobilisation qui était en bonne et due forme exactement le lundi avant le mercredi.
Oui, tu nous l'as dit tout à l'heure.
Non, mais c'est clair. Moi, je suis venu ici aujourd'hui pour donner mon droit de réponse. On l'entend, tant mieux. On n'entend pas. Tant mieux. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai donné des textes de loi, des faits historiques, j'ai élevé le débat.
Alors voilà ce qu'on pense, tiens, Mohamed qui nous écoute, qui est un auditeur du Grand Forum de France Maghreb 2, qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Mohamed.
Bonjour Mohamed. Bonjour.
Oui, alors on vous écoute Mohamed, allez-y.
Alors, vous voyez, cet événement, cette émission elle était super. Moi j'aime bien, c'est la première fois que je vous écoute, et en même temps, je connais Adama. Et donc, personnellement, qu'est-ce que ça va amener de lutter et de manifester contre un thème qui existe en France depuis très longtemps, tout en restant dans ce système-là de la République?
J'ai rien compris,
moi,
mais
moi, j'ai bien compris. Moi, j'ai bien compris sa question.
Bon, bah, c'est bien. Alors, si vous arrivez à me comprendre entre vous, c'est bien.
Eh ben, d'abord, je vais te répondre. T'as tout à fait raison. Aujourd'hui, nous sommes un régime républicain qui a été créé exactement en 1789. Nous part du principe que nous avons l'obligation de créer un système parallèle démocratique où l'humain va être entouré de justice. Exemple, nous, dans notre parti politique, on a changé le triptyque. C'est un triptyque démocratique. La nation, l'éducation et une direction. Que l'humain soit entouré de justice. J'ai très, très bien compris ta question. C'est pour ça que moi, je suis candidat j'ai été candidat pour les européennes. Je suis candidat pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. On va essayer de monter plus de 30 listes à l'échelle nationale. Je fais une validation des acquis de l'expérience en communication politique, publique, nationale et européenne. Je vous donne le moins de mes ambitions et t'as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. On est ensemble.
Bah, c'est bien. Si vous avez réussi à vous comprendre, c'est parfait. Merci Mohamed, en tout cas, depuis Perpignan pour votre question et votre appel. 01 40 33 9000 pour les quelques dernières minutes. Juste, Adama, qu'on se comprenne bien. Est-ce que aujourd'hui, la communication, si c'était à refaire, tu referais différemment?
Aujourd'hui, c'est que j'ai compris que le temps du recul, que certaines personnes par rapport à 4 personnes qui ont été assassinées, voilà, j'ai déconné, c'est une réalité. Mais ensuite, moi, je me suis prononcé en tant que personne morale, qui a quand même œuvré pendant 3 ans, qui communique sur les réseaux sociaux, quand même, on a assez connu à l'échelle nationale. Ensuite, il y a une instrumentalisation d'une vidéo de l'extrême droite, ça faut pas l'oublier, de F de Souche, qui a été repris par des journalistes qui n'ont pas fait leur travail, car ils ont dû faire le travail nécessaire d'investigation, du recul, de me contacter, comme l'ont fait Le Parisien, comme l'ont fait BFM. On a bien pu voir BFM et CNews, c'était pas la même communication. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une avocate aguerrie, Maître Semama. Elle m'a déjà fait gagner 6 jugements et on va y aller jusqu'au bout. Vous verrez que d'ici décembre, ils seront obligés de me faire passer à CNews, ils seront obligés de me faire passer à BFM TV.
Bon, Mehdi, est-ce que tu nous entends là?
Oui, je vous entends. Oui.
Bon, alors, est-ce qu'on peut avoir une petite réaction sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, cher Mehdi?
Concernant voilà le mouvement qu'a fait Adama Traoré, comment dire, c'est une excellente intention parce que on essaye d'impliquer une communauté, visiblement, hein, sans preuve aucune, dans un acte terroriste.
Merci. Bon, oui, c'est ça. Oui, on a
merci. Fait. Voilà, au moins, oui. On a compris le frère. Merci.
Ouais, non, mais j'ai tout à fait compris l'intention et moi, je suis assez d'accord avec ça, avec ton intention.
Oui. C'est encore coupé là. Ça commence à m'agacer. C'est que ces coupures à la répétition là, mais bon. Mehdi.
Bah moi, ça, j'entends
voilà,
bien. Là, moi,
voilà, vas-y, on t'écoute.
Non. Je...
Ouais, ça coupe de ouf là. T'es franchement, ça devient pénible. Je sais pas ce qui se passe. Si c'est chez toi, chez nous, bref, quoi qu'il en soit, c'est très, très, très fatigant. Bon, alors peut-être Rudy ou Gamal. Une
moi, je
veux
bien dire un truc par rapport à ça. Alors, bon, on va être très clair. Alors, j'ai pas vu le texte de communication. C'est pour ça que je vais pas me prononcer dessus. Ce serait prétentieux de ma part. Si effectivement la source d'information vient de F de Souche, forcément, ça a été tordu, forcément, parce que F de Souche, c'est des racistes. Il faut être très clair. Voilà. Là-dessus, on va pas discuter. Ensuite, c'est vrai que moi, ce qui me pose problème dans ce genre d'affaires, c'est qu'il y a le temps médiatique qui est un temps de spectacle, et le temps juridique est un temps très long et qui donne raison parfois aux gens sur le terme. Et qui, malgré tout, laisse des dégâts, puisqu'il faut à peu près 2 ans de procédure pour, si on parle de l'instruction et tout le reste, et la date d'audience, s'il y en a une. Et en attendant, bah, la personne, elle est sur le carreau. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je connais vaguement votre mouvement. J'ai vu que vous aviez effectivement un engagement sur les européennes, puisque j'ai un peu suivi ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire un truc. Au niveau d'engagement que vous avez, sachant que vous êtes une personne, une cible privilégiée par rapport au fait que vous représentiez, en gros, la communauté des quartiers, des musulmans, des blacks, bref, on peut mettre plusieurs strates comme ça de représentation. Vous devriez vraiment soit vous munir d'un conseil qui vous dirait ce qui passe et ne passe pas, un conseil juridique simplement, l'avocat, soit effectivement faire très attention parce que le moindre petit mot extrait de son contexte, et ça semble être ce qui s'est passé, vous sera défavorable. Ensuite, deuxième aspect, et c'est pas le moindre, c'est qu'il y a quand même une affaire, il y a mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, il faut prendre vraiment des pincettes. Pourquoi? Pas parce que vous avez eu tort de dire que c'est une instrumentalisation des médias, et là vous étiez dans votre bon droit, mais parce qu'en face il y a des gens, des familles qui sont endeuillées, des familles qui ont vu leurs proches tués pour aucune raison rationnel aujourd'hui, on ne connaît pas les vraies raisons, et que malheureusement, quand vous avez pris cette position, vous avez donné le sentiment, qui était sans doute faux, d'après ce que j'ai compris, que vous défendiez le bourreau. Donc en cela, je vous dis sincèrement, la lecture qui a été faite est une lecture qui a peut-être été biaisée, mais vous n'avez pas maîtrisé votre communication, l'empressement sans doute, je suppose, et c'est en ça que je vous dis franchement, faites très attention, parce que vous êtes une cible privilégiée, prioritaire, chez eux.
Pour répondre très rapidement, c'est que je tiens vraiment à affirmer ici, c'est que bien sûr, on a pris le temps du recul. C'est-à-dire, nous, on a demandé à toutes les personnes que pourquoi on n'a pas laissé le temps de l'enquête que l'IGS, l'Inspection Générale des Services de l'Intérieur, fasse un vrai travail de fond.
Ah, je vous donne d'accord.
Voilà, qu'il fasse un vrai travail de fond, que les politiques et les médias prennent du recul. On laisse le temps du deuil, on laisse le temps d'enterrement, en plus que la manifestation était juste magnifique. Mais voilà, qu'on se réunit tous autour de ce drame-là, dire comment ça peut arriver. Qu'on fasse un vrai travail de fond sur son milieu social, culturel et professionnel. Tout simplement, nous, on a répondu aux institutions. Car nous sommes un corps politique. Un corps moral, je suis une personne morale. Et les politiques et les médias en tête de file, Marine Le Pen, ils sont allés trop vite en besogne. On était dans l'obligation de se prononcer.
Bon. Merci Adama, en tout cas, d'être venu ici, donner ta version, ta vision. On l'avait comprise, évidemment. Juste ce qu'on a rappelé, c'était juste le timing. En fait, c'est un problème de timing, tout simplement.
Après, chacun voit midi à sa porte. Après, nous, on a été clair par rapport à notre prise de position, par rapport à notre expérience.
Non, mais connaissant les jeux, le jeu médiatique et politique d'aujourd'hui, le timing a été très
mauvais. Je finis juste sur cette dent-là. Nous sommes en France dans un pays de droit. Et ça, à un moment donné, c'est très important de le comprendre. Comment fonctionnent nos institutions? Aujourd'hui, il y a des leviers que nous, on peut utiliser en tant que personne physique. On doit avoir l'obligation de savoir s'en servir. Tout simplement.
Oui, d'accord, mais je vais vous dire, bon, je vais être méchant là-dessus. Ouais, maintenant. Bien sûr, on est très clair. Il faut savoir une chose. Vous avez parlé de poursuites que vous avez intentées. Vous avez raison de faire. Sauf qu'on est peut-être dans un pays de droit, mais il y a une réalité. Le droit, il est payant. Il n'est pas gratuit. Chaque acte que vous allez faire doit être payé à un huissier de justice 400 euros. Si vous avez, vous avez dit quoi, 50 personnes qui vont se poursuivre, ça, ça vous fait minimum pratiquement 20 000 euros de dépenses. C'est-à-dire que c'est vraiment conséquent. Et le problème de la justice française, elle n'est pas équitable parce qu'il y a les justices des riches et des pauvres. Et quand on est pauvre, eh ben, on n'est pas servi parce qu'il faut être capable de tenir la durée du temps en question. Parce que vous faites une première étape, première instance. Seconde instance, il faut c'est un incroyable. Appel. Une cassation, cour d'état, je me bêtise. Et après, en supranational, vous passez à l'européenne. Mais il faut 5 ans minimum. Mais
c'est pour ça, par rapport au millefeuille administratif qui est établi aujourd'hui en France, c'est pour ça qu'on fait la révolution. On veut vraiment épurer tout ça. Et par rapport à la justice, on a la chance quand même d'avoir un mouvement à l'échelle nationale. On a beaucoup de personnes qui soutiennent. On a une avocate en or. Et c'est pour ça qu'on peut bien sûr poursuivre toutes ces personnes-là. Et quand je dis qu'en tant que citoyen français, c'est vraiment, on a le devoir. Lorsqu'on est attaché dans notre plus profond, c'est-à-dire notre citoyenneté, notre humanité, on a le devoir de se prononcer en utilisant les textes de loi, tout simplement.
Merci Adama Traoré en tout cas d'être venu. La révolution est en marche, on peut la retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, où vous êtes très présent, cher Adama. Donc candidat, on a bien compris, à la mairie d'Aulnay, peut-être que tu reviendras en tant que... Tu reviendras,
c'est une certitude, on va tout donner.
Pendant la campagne, cher Adama. Hein, c'est pourquoi il faudra voter Adama Traoré.
Merci Christophe pour l'invitation, je t'ai harcelé et merci beaucoup.
Oui, c'est vrai que tu m'as harcelé.
Il y en a qui reconnaissent au moins.
Non, non, mais Adama, il me dit, ouais, je veux un droit de réponse. Mais un droit de réponse par rapport à quoi, mon frère?
Je l'ai harcelé.
Voilà. Bon, bon courage.
Ça m'a fait du bien, merci à vous, merci aux auditeurs, merci à vous tous et merci pour l'accueil. Et désolé si je dis quelque chose qui a baissé.
Non, il n'y a pas de problème.
Désolé au cas où, quand moi, chez des fois, j'ai un franc-parler.
Non, il n'y a pas de problème.
C'est jamais.
Bon, c'est bien de le rappeler. Merci Adama, à bientôt. Bon courage. Voilà, bon. Pour cette affaire, en tout cas, c'est si important de l'entendre, hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lui dans la presse, dans les médias, sans l'avoir écouté finalement. Donc c'était quand même important qu'il puisse s'exprimer et nous donner sa vision. Mehdi, t'es où? Bon, Mehdi, je sais pas ce qui se passe là. Il y a eu deux scrolls dans les lignes, je sais pas ce qui se passe. Allez, on passe au zapping, les amis, c'est parti.
Si on prend 100 millions d'Africains.
D'un remplacement de population.
Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord,
c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba.
La réémigration, c'est le départ des immigrés.
Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible?
Donner une bonne dose de cheval.
Votre pote, votre calmement, mais je me sens très bien.
Si la connerie se mesurait, il servirait à une maître étalon.
Alors, pour commencer ce zapping, messieurs Gamalabina, monsieur Rudy Kazi, eh bien, tiens, les amis musulmans de Alain Finkielkraut, la question lui a été posée sur Sud Radio. En a-t-il? Qui sont-ils?
Alain Finkielkraut, est-ce que vous avez, vous, des amis musulmans? Est-ce que vous en parlez avec eux?
Non, ben oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Ben, je connais bien, par exemple, Zineb El-Razoui.
Oui.
Et elle est très, très opposée, évidemment, au port du voile.
Lorsqu'on est athée comme moi, on est plus qu'offensé par les propos tenus dans la religion.
Les amis musulmans de Finkielkraut sont athées. Vous l'avez compris, entendu. Voilà.
Ouais, mais il fait dans l'humour, hein. Il a racialisé le musulman. Arabe, donc musulman.
Ouais, voilà. Donc ça, c'était sur cette radio, Rudy. Ça fait rire, quand même. Hein.
Ouais, non, mais après, c'est toujours symptomatique d'une certaine partie, on va dire, de la population qui est un petit peu dans l'entre-soi et ne voit, en fait, l'altérité qu'au travers de leur réflexion et de leur esprit, mais pas assez au travers des vrais contacts, quoi. Donc,
Alors, je sais pas si Mehdi profite du zapping, s'il nous écoute, nous entend, Mehdi? Bon, il nous entend pas visiblement. Alors on poursuit. On parle évidemment beaucoup depuis la semaine dernière, depuis même il y a 15 jours, de l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. Eh bien, l'idée émerge, messieurs, en politique, puisqu'on va proposer au niveau du Sénat des choses, visiblement, faisant référence d'ailleurs à un sondage. Les Français, sachez-le, ils sont favorables à l'interdiction du voile lors des sorties scolaires.
Faut-il interdire le port du voile pour les sorties scolaires? Selon un sondage du journal du dimanche, 3 Français sur 4 sont pour l'interdiction du port de signes religieux aux parents d'élèves en sortie scolaire. Demain, les sénateurs vont examiner la question. Car si la loi de 2004 interdit les signes religieux ostensibles à l'école publique, un flou juridique demeure.
Donc, modifions le code de l'éducation qui précise bien que le temps scolaire, il est bien de 8h30 en gros à 16h30 et que, y compris les sorties qui font partie intégrante d'un projet pédagogique, sont des temps où la laïcité s'applique. Et une fois que la loi sera claire, elle sera appliquée de la même manière pour tout le monde.
Des sénateurs de gauche dénoncent un texte de provocation En 2013, le Conseil d'État avait tranché sur cette question, estimant que les mères voilées ne sont pas soumises aux exigences de neutralité religieuse.
Voilà, alors, l'idée est mère. Attention, messieurs, moi j'ai envie de dire, et vous rappelez ce que nous disait Rachida Dati la semaine dernière. 2004, la voix sur le voile, elle est passée. Personne en face pour se mobiliser. 2010, sur le burqa, c'est passé aussi. Quand vous voyez que 1 million de personnes sont sorties dans les rues pour le mariage, pour dénoncer le mariage pour tous, c'est passé. Donc peut-être que là, il y a quand même des choses à entendre, à comprendre. Et d'où notre question posée tout à l'heure par rapport au rassemblement, à changer de tactique. Messieurs, là, aujourd'hui, d'après ce qu'on est en train de nous faire comprendre, c'est qu'une loi va passer sur le fait d'interdire des signes religieux lors des sorties scolaires. En plus, quand on y ajoute un sondage qui sont favorables à la politique, parce que 3 Français sur 4 y est favorable.
D'une manière ou d'une autre,
ça passera à Gamal.
On est en train de préparer les
exactement.
Moi, je suis catégorique sur un point. À l'époque, quand Mitterrand, sur l'initiative de Badinter, veut faire interdire la peine de mort, alors qu'il y a encore une affaire de meurtre d'enfant, la France est massivement opposée à l'interdiction. Voilà, c'est clair. La sauvagerie était autorisée, on avait le droit de tuer des gens. Parce qu'il nous sortait le coup de l'enfant assassiné par un criminel. Ouais. Donc le problème, c'est depuis quand l'opinion est suffisamment éclairée après avoir été manipulée par les médias de façon obsessionnelle, peut-elle aujourd'hui trancher alors qu'on n'est que dans un terrain d'émotion? Et je considère qu'effectivement, dans un pays où on refuse que l'initiative du peuple puisse obtenir un RIC, par exemple, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une toute puissance de l'État dans un pays où le président était président absolu pendant 5 ans, puisque le Parlement maintenant coïncide avec sa présidence. Il faut se poser la question de savoir ce que vaut la démocratie française, et on est très très loin d'un système démocratique ouvert ou éclairé, malheureusement. Alors si en plus il faut écouter les beaufs du comptoir nous expliquer qu'ils veulent plus entendre parler de voile dans, finalement en France, ça finit par toute la France. Hein. Accompagnement, c'est inquiétant.
Après, le fait par exemple que cette loi passe, cette loi en fait elle est contraignante parce que quelque part elle est presque en fait liberticide, dans le sens où la laïcité garantit l'exercice du culte, et si je prends par exemple l'article, je crois que c'est l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit en fait que la laïcité, enfin en tout cas qu'elle doit garantir la liberté de culte tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. A priori, un voile ne trouble pas l'ordre public, mais ce qui est dommageable derrière, c'est donc de voir en fait la liberté décrétée par la Déclaration des droits de l'homme être battue en brèche par un objectif politique. Maintenant, est-ce que il faut pas accepter en fait quelque part cette blessure pour pouvoir mieux repartir, sachant que la loi va quand même passer, et bien entendu une loi après l'autre, on recule toujours un petit peu plus dans les droits éventuellement, mais peut-être qu'il faut accepter que celle-ci passe pour qu'il y ait une meilleure mobilisation derrière. Peu importe les canaux politiques, associatifs, etc., pour amener en fait un vrai débat en fait sur la question de l'islam.
J'ai envie de parler d'un truc justement, parce que là faut être très clair.
Bon, alors pardon, j'ai une information très importante. Okay. Je l'évoque au conditionnel par rapport à l'attaque de la mosquée de Bayonne cet après-midi, qui a fait 2 blessés, tir à l'arme à feu. Il s'agirait d'un homme âgé de 84 ans qui est un ex-candidat Front National dans les Landes.
Ah, 84 ans, et quand ça me donnait raison, le bonhomme. Hein.
Donc, à prendre évidemment au conditionnel, ça, ce sont les informations qui circulent.
C'est un gars qui a fait la guerre d'Algérie, voilà. C'est à peu près sûr, je vous dis franchement.
Hein. Bon, en tout cas, voilà. Donc, quand on nous dit qu'effectivement, le Front National est un parti comme les autres, il faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons.
Ce qui est fou, c'est que c'est le Front National qui a mis sur l'âme, sur les médias, enfin, sur
la scène médiatique. Est-ce qu'on parle d'un attentat, là? Est-ce qu'on va parler d'un attentat?
C'est un attentat.
C'est un attentat.
C'est un ancien. Bon, Bayonne, 84 ans, guerre d'Algérie, c'est bon, la combinaison, elle est faite. Il faut être très clair. Il y a des gens qui oublient ce qu'est le Front National, parce que j'en ai marre d'entendre dire c'est un parti comme les autres, ou c'est pas un parti raciste. Le Front National, parce que c'est un petit rappel historique, s'est fondé 10 ans après la perte de l'Algérie en 62. Le Pen, en 72, avec son cache-œil. Voilà, c'est l'ancienne l'Algérie française. C'est pas seulement des pétainistes, des anciens nazis, bref. Et 10 ans après la perte d'Algérie, Le Pen fait un front national, par réaction au front de libération nationale.
Oui.
Vous apprécierez le
jeu. Oui, bien sûr.
Évidemment, pour dire on doit se débarrasser de nos Arabes de France, puis ils ont débarrassé les Français d'Algérie.
Oui.
Et aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un homme de 84 ans qui va cartonner à Bayonne une mosquée, évidemment, il ne va pas voir de mosquée, il voit des Arabes concentrés. Donc à partir de là, on se doute bien que l'idéologie qu'il va défendre est celle d'un frontiste pur et dur. Et évidemment, c'est un attentat terroriste.
Bon, alors on enchaîne avec dans le zapping aussi, messieurs. Beaucoup plus léger cette fois-ci. C'est Patrice Lafont, vous connaissez l'animateur télé, qui règle ses comptes avec Michel Sardou. C'était chez Hanouna, écoutez.
Michel Sardou, un mauvais souvenir.
Un mauvais souvenir, il y a eu quoi avec Michel Sardou?
Ah, mais il a fait les chansons.
Je le connais très bien, j'ai écrit toutes ses premières chansons.
Ouais, c'est vrai, bien sûr.
Ouais, les paroles. Et puis un jour, on s'est retrouvés dans un qui s'appelait ça s'appelait les Olympiades d'Europe numéro 1. À l'époque, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune.
78. Ferme ta gueule.
Plein d'artistes étaient là, il y avait tout le showbiz français. Et je ne l'avais pas vu depuis 4-5 ans, c'était un mec que j'adorais. Et je le vois au bout d'une grande salle comme ça, je me précipite sur lui pour lui faire la bise et tellement content de le retrouver. Il me met la main comme ça, il me fait, j'essaie de l'embrasser, il me dit, tu es gentil, pas devant tout le monde.
Voilà, au moins c'est fait, c'est dit. Voilà pour la petite histoire pour Patrice Lafont. Tiens, Michel Sardou, il vieillit très mal, hein, Michel Sardou. À propos du vote, est-ce qu'il vote? Est-ce qu'il se sent mobilisé? Écoutez sa réponse.
Moi, je vote pour personne, sauf pour la maire de mon village. On est 200 votants, on peut pas dire que je vais modifier la France. Mais elle est très sympa, elle a pas de pognon, elle fait ce qu'elle peut. Au moins, elle nous dit qu'elle fait ce qu'elle peut.
Voilà. Et pour le reste, vous ne votez plus?
Hein?
Pour le reste, vous ne votez plus?
Ah, pff, mais je m'en
mais
fous.
Mais ça, c'est pas très courageux, quand même.
Mais comment c'est pas courageux? Bah, ça veut dire que je m'en fous. Je suis un révolutionnaire, je les emmerde. Je donne plus rien, ni un blanc, ni un bleu, ni un rouge, ni un vert. Rien.
Voilà, il donne plus rien, Michel Sardou. Ça y est, c'est fini. Gamal.
Bon, Michel Sardou n'a pas mal vieilli. Il était déjà un mauvais jeune. Donc, je veux dire, à l'époque, c'était comme un gros facho. Je me rappelle sur son des colonies. Il était pour la peine de mort, d'ailleurs. Je viens d'en parler un instant. Donc, Michel Sardou est resté fidèle à son idéologie. Un bon réactionnaire de base dès la jeunesse.
Alors, politiquement parlant, François Bayrou, qui n'a pas pris la parole depuis longtemps quand même, s'est exprimé sur la laïcité. Et pour lui, il dénonce que le fait que la laïcité ne soit utilisée non pas pour vivre ensemble, mais pour vivre les uns contre les autres. C'est la version de François Bayrou.
C'est la définition même de la laïcité qui est mal perçue. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Vous savez, c'est moi qui ai interdit le voile dans les écoles.
Comme ministre de l'Éducation
par
nationale
par la circulaire
en 1994.
Qui avait fait à l'époque du bruit. Pourquoi? Parce que l'école, c'est le lieu où on doit tous former un pays, une nation, se souder, ne pas avoir des règles pour les uns et des règles pour les autres. C'est ça l'école. C'est le lieu, c'est le creuset où le pays se forme. Mais on perd de vue quelque chose de tout à fait essentiel, la laïcité. C'est la règle pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est la règle pour que on se respecte dans nos différences. Et pour que triomphe le plus important, qui est la compréhension mutuelle. Or, on s'aperçoit que assez souvent, la laïcité est utilisée non pas pour vivre ensemble, mais pour vivre les uns contre les autres.
Donc est-ce qu'il faut la redéfinir de manière à être effectivement plus efficace?
Pour allumer des procès des uns contre les autres.
Là, vous parlez de Marine Le Pen.
Voyez bien qu'il y a des forces partout dans la société qui vont dans ce sens-là.
François Bayrou, est-ce qu'il a raison?
Il a raison, bien sûr il a raison. Mais non, après il y a la laïcité qui est instrumentalisée déjà par rapport, si on prend le Rassemblement National, donc à des fins plutôt discriminantes en réalité, et qui désigne plus en fait une population qu'une religion, voire même les deux en réalité.
Ouais.
Maintenant il y a un autre type de laïcité, enfin des dévoués ou désavoués, si on prend l'origine même du terme de la laïcité, c'est aussi par rapport à des personnes ou des politiques qui sont contre en fait la manifestation religieuse dans l'espace public. Et ça concerne d'ailleurs pas forcément que les musulmans. Il y a encore quelques années, des anciens politiques qui disaient que la laïcité c'était une religion, avec l'objectif d'atténuer tout signe distinctif religieux, et en prenant même les chrétiens cible sur cet aspect-là.
Gamal, en un mot vite fait, parce que là on arrive au niveau de la pub.
Votre avis, moi je suis contre la laïcité, je l'ai déjà dit, mais par contre je suis pour les droits de l'homme français, la déclaration universelle qui, à mon sens, chapeaute tout le reste.
Un auditeur me dit, t'as été dur avec Michel Sardou puisqu'il s'est prononcé pour le port du voile. Il a dit, je m'en fous, moi ça me dérange pas.
Il se prononce pour le port.
Il a eu un éclair d'esprit.
Il se prononce pour n'importe quoi. Il s'en fout de tout maintenant. C'est le problème, c'est qu'ils s'écuse.
Bon,
son combat est perdu, c'est tout.
D'accord. Dans un instant, le quiz. Gamal Abida, Rudy Kazi, sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous, c'est lundi. Hein. Faut le temps que la machine se mette en route, et on est de retour très vite sur France Maghreb 2. À tout de suite.
France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous, le grand forum avec aujourd'hui Gamal Abida, cofondateur des droits civiques, le MDC, et monsieur Rudy Kazi qui lui du côté des forces républicaines, vice-président
des forces républicaines. Voilà, tu as vu, je me suis pas trompé, j'arrive à la fin de l'émission pour voir juste. Je rappelle demain émission spéciale avec Bernadette Sauvager, journaliste à Libération, auteur du livre L'affaire Ramadan. Demain avec à mes côtés Tarek Mamie, Audrey Pronosti et Céline Bory pour l'interroger, Bernadette Sauvager. Mercredi, on va un peu rire parce que ça fait du bien avec Ouria les yeux verts. Vous connaissez Ouria les yeux verts,
l'humoriste
qui cartonne hein, vraiment en ce moment sur les réseaux. Elle sera notre invitée ce mercredi. Voilà. Bon, alors, nous avons un petit quiz à faire ensemble, messieurs, puisque maintenant c'est le moment tant attendu par Adest Abitash, le plus centriste des chroniqueurs, hein, qui attend avec impatience.
J'ai gagné qu'une seule fois, donc
de savoir si il va être rattrapé dans son invincibilité pour l'heure. Avec donc, je rappelle les règles, mes questions qui ont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes donc le 28 octobre. Jusque là, tout va bien. Oui. Attention, il est important, et je le rappelle, de bien attendre la fin de mes questions avant de répondre aux questions. On est d'accord là-dessus?
C'est pas gamal, hein.
Absolument.
C'est pas gamal,
absolument.
Bon. Alors, on y va. C'est parti. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Première question. Bon, elle est toute simple, mais il faut juste attendre la fin de la question pour y répondre. Inauguration d'une statue en 1886 à New York. Laquelle?
La Liberté.
La Liberté.
La Liberté éclairant le monde, pour être précis.
Qui est l'œuvre d'un sculpteur français.
Non, non, c'est un Italien d'origine, Bartholdi. Et il a travaillé avec Gustave Eiffel pour l'armature. C'est un travail magnifique, j'adore.
Mais c'est le taf de Gustave Eiffel.
Non, c'est les deux, Bartholdi et Eiffel, les deux.
Moi, j'ai marqué sur mon papier sculpteur, œuvre d'un sculpteur français, monsieur.
Oui, d'origine italienne, il n'y a pas de problème.
Ouais, voilà,
bah, comme Eiffel d'origine allemande.
Bon, très bien. Première, bon, bon
mais
point.
Mais t'as pas attendu la fin de la question pour répondre.
Si, si, si. J'étais carré, là.
Alors, deuxième question, attention. Il faut bien attendre la fin de la question, effectivement. Rudy, quasi, a absolument raison. Quel ministre de la jeunesse et des sports est élu secrétaire national du Parti communiste en 2001?
Robert Rue.
Non.
2001?
Oui.
Secrétaire national du Parti communiste?
Elle est élue.
Ah oui, c'est Marie-Georges Buffet.
Marie-Georges Buffet, deuxième bon point.
J'aurais mis plus de temps
pour... Eh oui, oui, oui. Marie-Georges Buffet. Troisième question. 2-0 pour Abina. Je cherche un général français commandant la 10e division parachutiste pendant la bataille d'Alger en 54, mort en 2002.
Leclerc? Non.
Non.
54, c'est. Bijard.
Non.
Alors, c'est Ozarès?
Non plus.
En 2002?
Oui. Mort en 2002.
Un général?
Ouais, un général.
Ah oui, c'est Salan. Ou alors. Non. Il y a Salan, il y a.
Quoi, ça peut tu vas tous les faire, hein.
Moi, oui. Bah, ça va arriver. Salan et
commandant la 10e division parachutiste GB. Pendant la bataille d'Alger en 54.
En 54.
Ouais.
Mort. Général à l'époque.
Mort en 2002. De qui s'agit-il?
Il était commandant à l'époque.
Ouais, oui, absolument à l'époque.
Général
à...
Ah, il était commandant.
Oui. Non, fais pas mine de ne pas avoir compris ma question.
Non, mais attention, quand même. Le truc.
Mort en 2002. Bon, bah, tu n'as pas mal gauche.
Non, non, j'aime pas mal gauche. Tu
bah, dépêche-toi, on a pas toute la
Salon,
journée non plus.
Non, mais Salon, c'est des vieux.
Oui, bah, c'est ça. C'est
le carteron.
Oui, c'est le carteron de Généraux.
Je donne la réponse.
C'est pas De Gaulle.
Jacques Massu.
Ah, Massu, oh là là, j'ai honte.
Bon, voilà. Ah, comment t'as pu passer à
le
travers de ça,
mon chat?
Le coup de Massu, voilà, exactement. Toujours 2-0. Attention, la quatrième question, la voici, la voilà. Je cherche un journaliste, mais aussi animateur de radio. De télé, figure emblématique de l'émission Nulle part ailleurs, mort en 2018.
Oui, c'est. C'est ça. Oui, c'est le mec avec les gros cheveux, c'est un breton. Ça va en revenir. Oh là là, je suis fatigué aujourd'hui.
Philippe de
Philippe
son
Gildas, prénom.
Gildas. Gildas. Voilà. Bon.
Un bon breton.
Voilà, exactement. Attention, dernière question. Quoique peut-être une avant-dernière. Je cherche un humoriste français, créateur des Restos du Cœur, né en 44.
Coluche.
Coluche!
Michel Colucci, disons.
Michel Colucci est une bonne réponse. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 0. Allez, une petite dernière pour la route.
Ouais.
Allez, on va voir si vous la trouvez, celle-là. Je cherche cette fois-ci un chanteur italien né en 1963. Allez, chanteur italien, 63.
63
oui. Comment?
Pavarotti.
Non, non. Non, pas Pavarotti.
Français, tu veux dire italien d'origine?
Non, italien, j'ai dit, pas français. Chanteur italien.
Ah, italien, c'est en 63.
Ouais.
C'est Una Storia Portante, quand il s'appelle. C'est. Ça va revenir son nom. C'est un chanteur midinette.
Alors?
Alors, ça va revenir pas Bocelli, c'est quoi il s'appelle déjà celui-là? Celui qui chante Una Storia Portante. Ah, j'ai plus son nom, c'est relou. Ah oh mince. Bon, t'as le prénom, je l'ai, mais bon.
Bon, Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti. Oh,
voilà.
Ramazzotti.
Eh oui, eh oui. Bon,
fatigue.
Ça nous fait une belle victoire de Monsieur Gamalabina, 5-0.
4-4, j'ai eu que 4 points.
Comment ça 4?
Mais j'ai pas eu Ramazzotti.
Ah oui, c'est vrai, 4-0 exactement. Or, l'honnêteté de Gamalabira, bravo. We are the champions quand même, bravo.
Il est gentil, on va dire.
Bon, Rudy, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je suis un peu fatigué, peut-être, hein, ouais, je sais pas.
C'est la fatigue.
Non, moi, je suis encore en train de réfléchir sur le thème du débat d'aujourd'hui, tu vois.
Ah ouais, t'es resté bloqué.
J'ai pas le temps de jouer, là. J'ai pas le temps de jouer. Je suis en réflexion, moi.
Ouais, d'accord. J'ai bien compris, mon cher Rudy. Bon, eh bien, messieurs, merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Ce fut riche. Encore une fois, ça a passé très, très vite. Ouais, c'est vrai. On a perdu notre ami chez
Mikey. Animé aussi, hein.
Ah oui, comme d'habitude.
Il y a eu du rythme.
C'est le grand forum, mon vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Rendez-vous demain donc avec Bernadette Sauvager, journaliste, auteur du livre L'Affaire Ramadan. Mm-hmm. Mercredi avec Auria Les Yeux Verts. Tu repasses, je crois, Rudy, mercredi.
C'est ça.
Il y aura Bouriaki. Il y aura Bouriaki, il y aura Faiza Ben Mohamed. Et voilà, restez bien avec nous donc mercredi, puis jeudi. Il y aura de l'ambiance, évidemment, parce que là, on va un peu se détendre, parce que, il y en a marre.
Bouriaki, c'est un comique, Faiza Ben Mohamed, elle aime l'humour, ça va.
Oui, Auria Les Yeux Verts, bon, bah, c'est son métier, voilà.
Quand on lui dit, on lui fait confiance pour balancer 2-3 vannes.
Il va essayer d'être le plus sérieux de l'équipe, Rudy, quasi. Hein, mercredi, c'est ça?
Ah, je suis pas toujours le plus sérieux du groupe, hein, mais, ouais, non, on va découvrir, je vais être exigeant avec elle, hein, sur l'humour, attention. Hein.
Ah ouais.
Ça va être chaud.
Moi, j'aime bien. Absolument à découvrir, si vous ne la connaissez pas, Auria Les Yeux Verts, vraiment. Très sympa. Ouais. Dans un instant, l'ami Medjed qui va vous prendre la relève avec ses auditeurs qu'il apprécie beaucoup, hein, Gamal. Il aime beaucoup les auditeurs.
Ah oui, il kiffe les auditeurs. Surtout Mohamed.
Surtout Mohamed. Ah, d'accord, il y a des dossiers. Et évidemment, vous allez pouvoir jouer avec lui dans un instant sur France Maghreb 2 pour gagner des cadeaux juste après le journal, puisqu'il est dans quelques poignées de secondes, 18h. Et je rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre, hein, sur les réseaux sociaux, Facebook France Maghreb 2, Twitter Le Grand Forum FM2, la page Christophe Le Grand Forum, etc., etc. Merci d'écouter France Maghreb 2, il est pile 18h et c'est la première fois de ma vie que j'arrive à rendre l'antenne à l'heure pile. Le journal de Sophie Tarance. Bonsoir Sophie.
Bonjour à tous. La pratique de l'islam au cœur de la rencontre entre Emmanuel Macron et le Conseil français du culte musulman aujourd'hui, alors que le chef de l'État doit bientôt présenter des mesures contre le communautarisme. C'est un feuilleton qui ne cesse de s'étendre, celui du Brexit. Un nouveau report vient d'être accordé au Royaume-Uni, le dernier en théorie. Le divorce aura lieu le 31 janvier au plus tard. Et puis après la mort du chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, quelles conséquences sur le terrain? Les spécialistes craignent une montée de la violence en Syrie et en Irak. Emmanuel Macron reçoit depuis ce matin les représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Objectif selon le président de la République, voir comment les Français de confession musulmane peuvent vivre leur religion tout en respectant les lois de la République. En pleine polémique autour du voile, Emmanuel Macron reste pour le moment très prudent sur la question de la laïcité. Mathieu Bélissario.
Oui, c'est assumé, je ne veux pas céder à la précipitation. Voilà ce qu'affirme le chef de l'État qui ne veut pas, selon ses mots, participer à une espèce de confusion collective entre laïcité, lutte contre le communautarisme et islam. La récente polémique autour du voile, cette accompagnatrice scolaire prise à partie par un élu du Rassemblement national l'a pourtant obligé à sortir de sa réserve, Emmanuel Macron affirmant que le port du foulard dans l'espace public n'était pas son affaire, des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir, à droite comme à gauche, jusque dans les rangs de la majorité. Le sujet, on le sait, est évidemment très sensible, voilà pourquoi le président de la République doit s'en emparer, il devrait s'exprimer publiquement sur ces questions dans les prochaines semaines, des mesures sont attendues.
Également dans l'actualité, la galère pour les voyageurs de la SNCF de l'axe Atlantique depuis ce matin, seuls 3 TGV sur 10 circulent aujourd'hui au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. Les liaisons vers Nantes, Bordeaux et Rennes sont particulièrement affectées. 200 cheminots chargés de la maintenance des TGV sont en grève jusqu'à jeudi. Au cœur de la contestation, la fin d'un accord sur des jours de repos supplémentaires. Et autre mobilisation à la SNCF, celle prévue le 5 décembre. Point de départ d'une grève illimitée des cheminots et des agents RATP pour protester contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a prévenu dans un entretien diffusé ce matin, il ne fera preuve d'aucune forme de faiblesse. Le président appelle les grévistes à ne pas bloquer des familles ou des travailleurs. Patrick Balkany espère une issue positive. La justice se penche aujourd'hui sur la demande de remise en liberté du maire de Levallois-Perret, condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale. Cela fait désormais plus d'un mois que Patrick Balkany est derrière les barreaux. L'Union européenne accueille aujourd'hui une femme à la tête de sa banque centrale, Christine Lagarde. L'ancienne patronne du FMI prend aujourd'hui ses fonctions. Une première, une femme à ce poste. Une cérémonie de passation est prévue à Francfort avec l'Italien Mario Draghi. Le feuilleton dure depuis 3 ans, mais l'épilogue semble proche. L'Union européenne vient de donner son feu vert et accorde un nouveau report du Brexit au 31 janvier prochain. Brexit prévu initialement ce jeudi, le 31 octobre. Emmanuel Macron aura finalement donné son accord après s'être montré frileux quant à un nouveau report. Mais les 27 semblent vouloir en finir. Manon Bacour.
Oui, ils ont décidé de ne pas attendre la décision des députés britanniques. Ils doivent se prononcer cet après-midi sur la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre, un scrutin souhaité par Boris Johnson. Alors, la date du 31 janvier reste flexible. Il s'agit surtout d'éviter un no deal et laisse donc au Royaume-Uni la possibilité de sortir de l'UE au 30 novembre, au 31 décembre, si l'accord de sortie est ratifié évidemment. Ce texte de report est accompagné d'une déclaration politique de l'UE qui exclut toute renégociation de l'accord. L'Union européenne qui ne relâche donc pas la pression et demande la nomination d'un commissaire européen britannique.
Je vous rappelle que le Brexit devait intervenir le 29 mars dernier et qu'il a déjà été repoussé à 2 reprises. Christophe Castaner appelle à une extrême vigilance après la mort du chef de Daesh, Aboubakar al-Baghdadi. Le ministre de l'Intérieur craint une possible intensification de la propagande djihadiste et des actes de vengeance à l'occasion d'événements publics. Une mort d'al-Baghdadi qui pourrait également provoquer un regain de violence en Syrie et en Irak, selon Alain Rodier, directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement.
Le moment important, c'est quand Daesh va reconnaître le martyr de son leader. Tant que Daesh ne l'a pas fait, on peut considérer qu'il n'est pas mort. Mais du moment où son martyr est annoncé, il y aura bien sûr des appels à la vengeance un petit peu partout, et certainement qu'un certain nombre de kamikazes se lanceront pour venger le calife.
Et Daesh vient de perdre son porte-parole, le bras droit d'al-Baghdadi, tué lors d'un nouveau raid américain. Du sport pour finir avec du tennis et Roger Federer qui renonce au Masters de Paris cette semaine. Le Suisse dit vouloir se ménager au lendemain de son titre à Bâle. Roger Federer se dit désolé pour ses fans français qu'il retrouvera l'année prochaine pour Roland-Garros. Le Masters de Paris commence aujourd'hui à Bercy. Et puis autre champion, Tiger Woods, le golfeur américain vient de remporter au Japon son 82e titre sur le circuit. Il égale ainsi un record vieux de 54 ans, détenu par un autre américain, Sam Snead.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.